Europe won at the American election.
Europe Matin, le 7-9.
Europe won live for the American election.
Mathieu Béliard.
Et vous êtes tous des experts maintenant. Vous savez qu'il faut 270 grands électeurs pour gagner la présidentielle américaine. Et cette élection est vraiment étonnante, déroutante, déconcertante. Hier, à la même heure, je vous disais que c'est Trump qui surprenait, qu'il avait l'avantage. C'était vrai, hein, au réveil pour vous ce matin. Sachez-le, toujours pas de gagnant et avantage Biden. Il pourrait même l'emporter. Vous le savez, on restera toujours prudent. Ici, on va vous raconter cette élection. Quand les décomptes seront terminés, nous croyons que nous serons les vainqueurs, dit le candidat démocrate. Côté républicain, on l'accuse de fraude, de voler l'élection. Trump envoie ses avocats pour lancer des procédures dans les États les plus serrés, le Wisconsin, le Michigan, entre autres, ou alors les États avec un fort enjeu comme la Pennsylvanie. On continue de suivre au plus près du terrain nos envoyés spéciaux. Ils sont à Washington, à Los Angeles. Nous sommes en Pennsylvanie, dans un comté de supporters de Trump, au quartier général de l'équipe Biden, également dans le Delaware. Bien sûr, notre correspondant Xavier Yvon à New York, tout au long de la matinale pour décrypter, parce qu'au-delà des comptes, on a besoin d'y voir clair. Et pour m'accompagner ce matin, à nouveau Yannick Mireur, politologue, spécialiste des États-Unis. Bonjour Yannick Mireur.
Bonjour.
La rédaction d'Europe 1, vous le savez, reste mobilisée pour vous raconter cette élection hors norme. Ce matin, nos invités aussi. Exceptionnel. Un avocat star, Alan Dershowitz, à 7h40, démocrate revendiqué. Il a travaillé avec Donald Trump au début de l'année sur son procès en destitution. C'est un véritable expert de la Constitution américaine dans le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. 8h15, autre invité exceptionnel, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. La première réaction officielle de la France, c'est ce matin sur Europe 1, au micro de Sonia Mabrouk. Il est 6h59.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Laurent Cabrol est avec nous à 6h59.
Eh bien, je vous présente, chers amis, le beau temps d'automne. Ça y est, il est là pour une journée, hein, ou deux, une journée et demie. Mais aujourd'hui, vraiment, ce sera une journée uniformément ensoleillée. Après les brumes et les brouillards qui sont encore très nombreux, mais ça, c'est l'automne. Après les froidures du matin, mais ça, c'est l'automne. Et après un réchauffement assez rapide dans le coin de l'après-midi grâce au soleil, c'est toujours l'automne. Donc, vous voyez que c'est un anticyclone bel et bien situé, que nous allons avoir une journée agréable, agréable pour la saison. Et nous allons vivre cette journée avec des températures cet après-midi de 11 à Lille, de 12 à Paris, Épinal, 13 à Rennes et Lyon, 14 à Limoges, 16 à Bayonne, 17 à Toulouse et 19 à Albi et 20 degrés à Nice. Et je vous parlerai tout à l'heure des températures du matin qui sont quand même un peu froides. Hein. Charleville-Mézières, moins 3 quand même. Attention.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Présidentielle américaine.
USA 2020.
Europe 1, au cœur de l'événement.
Bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 7h. Je ne suis pas ici pour déclarer que nous avons gagné, mais je suis ici pour vous dire que quand les décomptes seront terminés, nous croyons que nous serons les vainqueurs.
Quand les décomptes seront terminés, Joe Biden ne veut pas encore vendre la peau de l'ours, mais il sera vraisemblablement le prochain président des États-Unis. Les dépouillements sont encore en cours dans plusieurs États. Tour d'horizon dans un instant avec Xavier Yvon. Du côté de Donald Trump, pas question de s'avouer vaincu. Il compte multiplier les recours judiciaires, notamment en Pennsylvanie. L'État clé toujours en suspens avec ses 20 grands électeurs. Dans ce journal, également l'inquiétude grandissante des médecins face à un reconfinement pas toujours bien respecté.
Les 15 jours, 3 semaines qui viennent vont être très durs. Je demande une solidarité complète des Français sur un respect très scrupuleux du confinement. Soit on va gagner ensemble, soit on va perdre ensemble.
Et puis la mauvaise passe des clubs de foot français en Ligue des Champions après l'OM, le PSG s'incline, défaite aussi pour Rennes.
Juste après ce journal, la division, le doute, le suspense, le blocage politique nuit à l'économie, c'est l'éclairage éco de Nicolas Barré. L'aveuglement des Européens face à l'élection américaine, le populisme a encore de beaux jours devant lui, c'est le regard international de Vincent Hervouette, l'édito sport de Virginie Fulpin, et puis nous retrouverons Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1.
Écoutez le monde changer.
Hier, les Américains se sont réveillés sans connaître le nom de leur président. Ce soir, ils se couchent dans la même incertitude, avec tout de même plusieurs résultats importants qui sont tombés ces dernières heures et laissent présager une victoire pour Joe Biden. Bonjour Xavier Yvon.
Hello, bonjour à tous.
Bonjour, vous êtes notre fil rouge tout au long de cette matinale en direct de New York. Le chiffre de 270 grands électeurs pour gagner la présidentielle, tout le monde l'a en tête. Joe Biden est très très près.
Oui, on peut même dire que Joe Biden est aux portes de la Maison-Blanche. Il a 264 grands électeurs en comptant l'Arizona que lui attribue l'agence AP qui fait référence. On n'est donc pas très loin des 270, hein. Il en manque 6 si vous le calculez bien. Pour passer la ligne d'arrivée, Joe Biden doit remporter l'un des trois États qui sont encore en train de compter, la Pennsylvanie, la Géorgie ou le Nevada. Un seul suffit. Le démocrate espère le même scénario que dans le Michigan et le Wisconsin qu'il a remporté hier dans la journée après une remontée spectaculaire, parce que depuis 24 heures, le dépouillement de la montagne de bulletins de vote envoyés par la Poste réduit les écarts avec Donald Trump. Je vais vous donner un exemple pour bien comprendre. La Géorgie. Il y a 24 heures, quand on se parlait, Donald Trump avait 370 000 voix d'avance. Là maintenant, cette avance, elle n'est plus que de 37 000 voix. Elle a donc été divisée par 10, c'est spectaculaire. Ce qui se joue en ce moment dans les bureaux de dépouillement, c'est donc une course de petits chevaux. Si Joe Biden rattrape Donald Trump en Géorgie, en Pennsylvanie ou s'il garde son avance dans le Nevada, alors c'est gagné. L'ancien vice-président sera le 46e président des États-Unis. Pour Donald Trump, c'est beaucoup plus compliqué. Il doit remporter tous ses États encore indécis pour espérer être réélu. Autre moyen, pense le président, c'est de contester les résultats devant la justice. Ses avocats demandent un recompte dans le Wisconsin et l'arrêt du dépouillement en Pennsylvanie et en Arizona. Et justement, en Arizona, il y a de la tension ce soir, cette nuit, autour d'un des plus gros bureaux de dépouillement de Phoenix, où des supporters du président sont rassemblés et crient « Arrêtez de compter les bulletins ».
Xavier Yvon, en direct depuis New York, on va vous retrouver tout au long de cette matinale. Xavier, vous restez avec nous. On a bien compris que le sort des Américains est suspendu au vote de deux États, la Géorgie et le Nevada. On va surveiller évidemment. Hier soir, Joe Biden a repris la parole depuis son quartier général de Wilmington dans le Delaware. Il a pris le contre-pied des déclarations tonitruantes de son adversaire Donald Trump.
Oui, il a d'ailleurs pris un malin plaisir à ne pas le citer. Déclaration optimiste, mais pas trop quand même.
Here, the
ici, c'est le peuple qui choisit. On ne vole pas le pouvoir au peuple. Le peuple déterminera qui sera le président des États-Unis. Et le peuple seul. Désormais, après une longue nuit de décompte, il est clair que nous allons gagner assez d'États pour atteindre les 270 grands électeurs nécessaires pour gagner la présidentielle. Je ne suis pas ici pour déclarer que nous avons gagné. Mais je suis ici pour vous dire que quand les décomptes seront terminés, nous croyons que nous serons les vainqueurs.
Joe Biden, hier soir dans le Delaware.
Donald Trump, lui, continue à se déchaîner sur Twitter. La défaite, il n'y pense même pas, en tout cas officiellement, et il compte lancer une offensive judiciaire.
Bonjour François Clémenceau.
Bonjour.
Rédacteur en chef international du Journal du Dimanche, vous êtes à Washington. Donald Trump n'a pas la réputation d'être un calme, mais là, plus que jamais, il s'énerve et il espère l'emporter sur tapis vert.
Oui, c'est un président Trump apparemment très fébrile qui s'agite dans tous les sens depuis qu'il sent que cette élection lui échappe. Selon les médias locaux de Géorgie, l'équipe juridique de la campagne Trump vient de déposer un recours devant un tribunal de Savannah pour interrompre les opérations de décompte des votes par correspondance sous prétexte d'un début de bourrage d'urne. Cela s'ajoute à la demande d'un recomptage des voix dans le Wisconsin, une plainte pour entrave à des observateurs républicains dans des bureaux de dépouillement dans le Michigan et une procédure en cours devant la Cour suprême pour faire interrompre le décompte des votes par correspondance en Pennsylvanie, là où la remontée de Joe Biden dans les banlieues de Philadelphie menace de faire perdre Donald Trump.
Vous écoutez, François, Donald Trump semble déterminé à utiliser tous ses pouvoirs.
Oui, selon la chaîne CNN, le président serait intervenu personnellement auprès de gouverneurs républicains, par exemple dans l'Arizona et en Géorgie, pour leur demander d'agir, sans qu'on sache trop comment. On dit aussi que nombre de barons républicains conseillent désormais au président d'attendre plus sereinement les résultats, et le fameux Ben Ginsburg, qui avait dirigé l'équipe juridique de la campagne Bush en 2000 en Floride, estime que le président a tort de s'entêter en allant chercher sa victoire devant les tribunaux.
François Clémenceau, rédacteur en chef international du Journal du Dimanche à Washington. Et vous parliez de la procédure devant la Cour suprême pour interrompre le décompte des votes par correspondance en Pennsylvanie. Ce matin, il reste 11% des bulletins à dépouiller.
Joe Biden peut l'emporter avec le vote des grandes villes, mais pour l'instant, Donald Trump est en tête. C'est d'ailleurs l'un des enseignements de l'élection. Une mobilisation massive de la base de l'électorat républicain, les cols bleus d'une Amérique plus rurale. Écoutez le reportage à Freeport, au nord de Pittsburgh, en Pennsylvanie, signé Théo Manval.
À 40 ans, Jesse s'est inscrit pour la toute première fois sur les listes électorales cette année. Ouvrier d'une aciérie des environs de Freeport, il est l'exemple parfait de cette base de col bleu qui s'est encore renforcée autour de Donald Trump.
C'est la première fois que j'ai voté de ma vie. Et j'ai voté pour Trump. C'est celui qui défend le mieux nos familles de classe moyenne. Ce qu'il a fait pour l'économie, notre secteur de l'acier, c'est la clé.
L'acier américain redevenu compétitif après les taxes imposées par Trump sur celui venu de Chine. Les ouvriers étaient déjà un socle électoral du président, mais son bilan économique a levé certains doutes, y compris chez ce retraité.
Je crois que je le soutiens plus qu'il y a 4 ans. La première fois, j'avais voté pour lui parce que je ne pouvais pas encadrer Hillary. Mais là, je trouve qu'il a fait du très bon travail. Il a allégé les règles. On a eu beaucoup de croissance avant le Covid.
Les sondeurs l'ont enterré. Pourtant, tous les gars avec qui je travaille ont voté Trump, un raz-de-marée, reprend Jesse. Un peu plus loin, Floyd, employé, lui, des forages gaziers, est également persuadé que le président ne peut pas perdre en Pennsylvanie, sauf, comme il le martèle, en cas de fraude des démocrates. Freeport, Théo Manval, Europe 1.
La Pennsylvanie où le dépouillement ne devrait pas se terminer avant demain.
Et Xavier Yvon, vous êtes toujours avec nous en direct de New York. Vous avez une idée, Xavier, du moment où on pourrait connaître enfin le nom du futur président des États-Unis ?
Alors, d'ici quelques heures, si la Géorgie fait ce qu'elle a promis, c'est-à-dire donner ses résultats là dans la nuit, ici, hein, il est 1h du matin, on finit de dépouiller les derniers votes, les derniers milliers de votes par correspondance. Si ce n'est pas la Géorgie, si ça ne se passe pas comme prévu, ce sera le Nevada qui doit livrer son verdict vers 18h heure française.
Xavier Yvon, en direct de New York, merci, on vous retrouve tout au long de cette matinale. En tout cas, jamais autant d'Américains n'ont voté pour une présidentielle. 160 millions d'électeurs, soit une participation record de près de 67%. Cette voix, c'est celle du rappeur américain Kanye West, qui vous vous en souvenez peut-être, s'est présenté à l'élection. En tout cas dans 12 États. Il a récolté 60 000 voix, quasiment rien, et pourtant il n'exclut pas de se représenter dans 4 ans.
7h09 sur Europe 1. Nous revenons en France à présent avec la pandémie, bien sûr, et désormais plus de 4 000 malades en réanimation. Près de 400 nouveaux décès à l'hôpital en 24 heures. Le gouvernement pourrait annoncer ce soir un durchcissement des mesures.
Notamment un couvre-feu à 21h en région parisienne. Le confinement n'est pas aussi bien respecté qu'en mars-avril, d'où l'inquiétude et le coup de gueule de ce médecin, le professeur Gilbert Deray. Il est chef du service néphrologie à la Pitié-Salpêtrière.
Les 15 jours à 3 semaines qui viennent vont être très durs parce que les réas se remplissent à toute allure, les hôpitaux se remplissent à toute allure parce que nous avons déjà commencé à les programmer. C'est pas parce qu'on annonce 500 morts ou 400 morts Covid, ce qui est déjà énorme, qu'il faut s'arrêter là, hein. C'est des pertes de chance gigantesques pour les autres patients. La deuxième chose, c'est que pour l'instant, jamais dans ce pays, nous avons été obligés de choisir entre deux patients et que ça risque d'arriver. Nous avons échappé à cela en mars, avril, mai. Ça va nous arriver. Et que, imaginez ce qui va se passer quand un médecin va être face à deux personnes, une de 55 ans et une de 40, c'est qu'il va dire « je prends celle de 40 ». C'est ma mère, c'est ma grand-mère qui demain va pas pouvoir être sauvée. Et donc, je demande une solidarité complète des Français sur ce qu'on a mis en place. Ça passe par un respect très scrupuleux du confinement. Soit on va gagner ensemble, soit on va perdre ensemble.
Voilà les mots du professeur Gilbert Deray, joint par Victor Delande, conférence de presse du gouvernement sur la situation sanitaire, tout à l'heure à 18h. La France ne se bat pas contre l'islam, ce sont les mots d'Emmanuel Macron dans une tribune que publie le quotidien britannique Financial Times. Le président s'indigne contre un article qui l'accusait de stigmatiser les Français musulmans à des fins électorales. Il explique que la France combat le séparatisme islamiste, qui est selon lui le terreau des vocations islamistes.
Et puis le football, et c'est un peu la série noire pour les clubs français en Ligue des Champions. Après l'Olympique de Marseille, Rennes et le PSG se sont inclinés hier.
Oui, défaite de Rennes à Chelsea 3-0. Échec aussi pour le PSG. Le deuxième en trois matchs, les Parisiens battus en Allemagne par Leipzig 2-1. Retour sur une soirée cauchemardesque avec Jean-François Pérez.
Tout avait pourtant bien commencé avec un but d'entrée de Di Maria, mais l'Argentin rate dans la foulée le pénalty du 2-0, c'est le tournant du match. Leipzig se rebiffe, égalise, prend l'avantage. Paris perd les pédales et voit rouge à deux reprises. Gueye et Kimpembe sont expulsés. C'est lent, le pire départ du PSG en Ligue des Champions depuis 10 ans. Le capitaine Marquinhos fait face dans la tourmente.
Il ne faut pas qu'on continue comme ça. On sait que cette compétition, elle est très difficile, elle est très, très dure. Et il faut qu'on augmente notre niveau des joueurs si on veut aller vraiment loin. Le foot, il n'a pas de patience. Pour moi, pour le coach, pour tout le monde, il faut qu'on rentre sur le terrain et on se bat pour gagner.
Certes, Neymar, Mbappé, Verratti n'étaient pas là, mais les absents ont toujours tort. Ce PSG est trop fragile, trop dépendant de ses vedettes. Et les questions déjà aiguisées sur l'avenir de l'entraîneur Thomas Tuchel vont sans doute rythmer la vie du club ces prochains jours.
Jean-François Pérez, ce soir en Ligue Europa, gros match en perspective pour Lille qui va défier l'AC Milan sur son terrain. Nice se déplace de son côté sur le terrain du Slavia Prague.
Merci beaucoup Hélène Zellani. Yannick Mireur, politologue, spécialiste des États-Unis, est en studio avec nous tout au long de cette matinée. Alors on reprend prend les cartes hein, d'hier. On assiste donc à une forme de remontada, excusez-moi l'expression, de Joe Biden, puisque les écarts semblaient insurmontables hier. On raconte que Donald Trump s'agite, qu'il tweete, qu'il envoie ses avocats. Cette nervosité, elle traduit quoi ? La remontée inéluctable, en fait, de Joe Biden ce matin ?
Clairement. Et la plus spectaculaire, je me rappelle bien avoir été ici il y a 24 heures, c'est pas si vieux, avec quelque chose de quasiment irrattrapable en Pennsylvanie, 700 000 voix d'écart, alors qu'il restait un petit peu plus d'un million de bulletins à dépouiller, donc on pouvait quand même se dire que ce serait très difficile de les récupérer. Un de mes amis qui était un membre du gouvernement américain il y a quelques années me disait exactement la même chose. Donc c'est pas qu'une point de vue français. Et puis on observe aujourd'hui que peut-être que Biden ne remportera pas la Pennsylvanie, 20 grands électeurs, mais qu'en revanche, il a refait quasiment 500 000 voix, ce qui est absolument spectaculaire. Et ce qui revient à ce qu'on disait un petit peu hier, c'est-à-dire que tout dépendait de où étaient les bulletins qui restaient à dépouiller. S'ils étaient dans des centres plutôt urbains ou périurbains, plutôt tendance bleue démocrate, ou plutôt campagnard rural, tendance rouge Trump républicaine.
Il est 7h13.
Europe won at the American election.
Europe Matin, le 7-9.
Europe won live for the American election.
Mathieu Belliard.
Le suspense toujours de la présidentielle américaine avantage Biden, la situation de blocage pour l'instant, un dépouillement sous pression alors que le camp Trump crie à la fraude. Ce matin sur Europe 1, on décrypte cette situation avec un invité de marque, avocat star, démocrate revendiqué, il a représenté Trump dans son procès en destitution. C'est un spécialiste de la constitution américaine, avocat entre autres d'O.J. Simpson ou de Jeffrey Epstein, à l'aube d'une longue bataille juridique, Alan Dershowitz. Alan Dershowitz, invité du tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage écoute Nicolas Barré.
Présidentielle américaine.
USA 2020.
Europe 1, au cœur de l'événement.
Mathieu Belliard.
Il est 7h16 sur Europe 1.
Région Job vous présente l'éclairage éco. Plus de 100 000 offres d'emploi sur le site et l'appli Région Job.
Avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
L'extrême division politique des États-Unis qui ressort du scrutin va pénaliser l'économie et favoriser la bourse. C'est un peu paradoxal, Nicolas, non ?
Ah oui, un petit peu. Alors commençons par la bourse. L'absence de vague bleue démocrate a été saluée dès l'ouverture de Wall Street par une hausse de près de 3% tirée par le secteur technologique. Les GAFA, en fait, respirent. Facebook a bondi de 8%, Google 7%. Pourquoi ? Parce que, privés de la nette majorité dont ils avaient rêvé au Congrès, eh bien les démocrates, s'ils l'emportent, ne pourront pas durcir la régulation des géants de la tech, ni alourdir la taxation des plus-values redoutées par le secteur avant l'élection. Le mieux qui puisse arriver à ces secteurs très dépendants de la régulation, que sont la tech, la finance, la pharmacie, eh bien c'est que le Congrès et l'exécutif soient paralysés et on y va tout droit, quel que soit l'occupant de la Maison-Blanche.
Mais ce blocage politique qui se profile n'est pas bon du tout pour tout le monde en tout cas.
Non, notamment alors pour tous ces secteurs qui avaient parié sur une large victoire démocrate pour relancer des travaux publics ou les énergies vertes. Une entreprise emblématique de ce secteur comme Caterpillar, les engins de chantier, a par exemple dévissé hier à Wall Street. Mais fondamentalement, cette situation de blocage politique à Washington va être pénalisante pour l'économie dans son ensemble. Et ça pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on va connaître une période d'incertitude du fait des recours juridiques. Et si Joe Biden l'emporte finalement, eh bien la transition avec l'équipe sortante sera chaotique. Et ensuite, parce que quel que soit le vainqueur, il n'aura ni la volonté, si c'est Trump, si jamais c'est Trump, ni le capital politique, si c'est Biden, pour imposer une stratégie nationale pour gérer la deuxième vague du virus. Or, cette cacophonie à laquelle on assiste entre les États est dévastatrice pour l'économie, pour le commerce, pour la reprise. C'est d'ailleurs pour ces raisons que plusieurs instituts de conjoncture économique ont révisé à la baisse leurs prévisions de rebond de l'économie américaine l'an prochain autour de 3,6%.
La prochaine administration américaine aura aussi du mal à conduire des réformes de fond.
Oui, et ça, c'est vraiment un point majeur. La pandémie a mis en évidence les faiblesses qu'on connaissait de la couverture santé de dizaines de millions d'Américains. Mais avec un Congrès aussi divisé, il y a évidemment peu de chances que ce sujet avance. De la même manière, le nouveau plan de relance de l'économie, même en cas de victoire de Joe Biden, ne sera pas aussi ambitieux qu'on aurait pu l'imaginer, alors que les États-Unis ont de réels besoins de remise à niveau de leurs infrastructures. Finalement, ce sont les générations futures qui paieront tous ces blocages.
Merci Nicolas Barré.
L'éclairage éco vous a été présenté par Région Job. Envie de travailler plus près de chez vous ? Trouvez votre futur employeur avec plus de 100 000 offres d'emploi sur le site et l'appli Région Job.
Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu.
Donald Trump a perdu l'Arizona, le Michigan et le Wisconsin, mais il résiste.
Il est blindé. Washington a voté démocrate à 90%, ça veut dire que Donald Trump campe dans sa capitale comme un cow-boy solitaire en terre apache. La Maison-Blanche est d'ailleurs protégée ce matin de l'émeute par des palissades. Depuis 4 ans, le locataire a résisté à l'expulsion malgré le mépris de l'establishment, une enquête du FBI, le harcèlement des médias, une procédure en destitution et tous ceux qui dénoncent avec indignation un tricheur, un menteur, un voleur, un jouisseur et même un agent du KGB. Cette présidentielle a bien été un référendum pour ou contre Donald Trump. Il l'a gagné, même s'il perd le scrutin.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Ben, Trump n'a pas subi de désaveu, il rassemble 4 millions d'électeurs de plus que la dernière fois. Les déplorables, les ratés, les pecnos du Midwest, les retraités, les ouvriers en voulaient 4 ans de plus. Quel camouflet pour les sondeurs qui donnaient entre 7 et 11 points d'avance à Biden. Quelle claque à tous ceux qui l'ont toujours considéré comme un président indigne. Et il y a donc une armée d'avocats qui a commencé à ferrailler. Ça va durer. C'est humiliant de ne pas être réélu. En France, c'est la règle, mais aux États-Unis, depuis 50 ans, il n'y a que Jimmy Carter et George Bush père.
Joe Biden a promis hier soir encore d'être le président de tous les Américains.
Ben, ça sonne comme une promesse de politicien, non ? Il connaît la musique, il est vrai. Il a commencé sa carrière de sénateur en 1970. Il atteint le pinacle 50 ans après. C'est courant dans le commerce de détail, mais c'est rarissime dans la politique aujourd'hui. Cette semaine, le contraste entre les deux septuagénaires était frappant. L'énergie increvable de l'un, qui a pourtant été malade du coronavirus, et puis la lassitude de l'autre, qui devra pourtant se battre coincé, s'il est élu, coincé entre un Sénat républicain et la Cour suprême, égaieté par une vice-présidente qui se prépare à devenir sa veuve. Si Donald Trump était philosophe, il dirait « mission accomplie ». Et il prendrait sa retraite dans un paradis fiscal. Mais si Dolan était philosophe, ça se saurait et il n'aurait jamais été président.
Merci Vincent Hervouet, le regard international. Il est
7h21. Europe Matin, le 7-9.
Europe One live for the American election.
Nous continuons à suivre de très près les résultats de l'élection américaine à mesure qu'ils nous parviennent, bien sûr. Mais d'abord, à 7h24, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ce matin, Virginie, on voulait vous passer un peu d'hymne de la Ligue des Champions, mais bon, c'est pas trop l'ambiance apparemment. Et c'est une semaine à oublier pour les clubs français dans la prestigieuse Coupe d'Europe. 3 défaites après l'OM mardi, le PSG et Rennes ont aussi perdu hier. Les Rennais battus 3-0 par Chelsea, les Parisiens 2-1 à Leipzig. Pour vous, au PSG, le problème a un nom, celui de l'entraîneur Thomas Tuchel.
Oui, il était presque souriant à la fin du match hier. J'ai pas bien compris ce qui l'amusait, que son équipe finaliste de la dernière Ligue des Champions vienne de perdre son deuxième match en 3 rencontres en Europe, que ce soit son plus mauvais départ depuis l'arrivée des Qataris. C'est vrai que c'est hilarant. Hein. Sinon, c'est peut-être le scénario qui était drôle. Faire une bonne première mi-temps, mener 1-0, avoir un pénalty, donc une balle de 2-0, qui aurait sans doute plié le match, rater ce pénalty, s'éteindre et perdre. Ah bah oui, elle est bien bonne celle-là, Thomas, c'est vrai. Ou alors, l'entraîneur a juste envie que le PSG lui montre la porte de sortie. Et là, il y a de quoi sourire parce que ça va finir par arriver. L'équipe était diminuée hier, oui. Mbappé, Neymar, Verratti, j'en passe, absent. Ça vous change la donne. Thomas Tuchel n'a pas cessé de se lamenter sur le calendrier trop chargé à cause de la crise sanitaire. Ça use ses joueurs. Ouais, la bon dos, la crise sanitaire. Hein. L'entraîneur n'était pas forcément obligé de faire jouer Mbappé contre toutes les équipes de Ligue 1. Être entraîneur, c'est aussi faire tourner son effectif, protéger certains joueurs, faire de la DRH, en fait. Pas juste se plaindre comme si rien n'était de sa faute. Hein. On a l'impression que Thomas Tuchel est spectateur et pas acteur au PSG.
Mais les joueurs, ils ont forcément aussi une part de responsabilité, Virginie.
Ouais, mais j'ai cru comprendre qu'au foot, les joueurs étaient meilleurs quand ils jouaient à leur vrai poste. C'est dingue, ça, comme découverte. Hein. Thomas Tuchel a un capitaine, Marquinhos, qui est défenseur central, sans doute un des meilleurs du monde. Mais il préfère le faire jouer ailleurs, au milieu de terrain. Je pense que tous les gens qui regardent le PSG ont compris depuis longtemps que ça ne marchait pas. Tous, sauf l'entraîneur. Et quand je dis que Thomas Tuchel a l'air d'un spectateur, c'est aussi parce qu'il attend toujours les dernières minutes pour faire rentrer de nouveaux joueurs, que le match se passe bien ou pas, hein, on l'a encore vu hier soir. C'est ça, être coach. Le pire, c'est que le PSG peut encore se qualifier pour les huitièmes de finale et même finir premier de son groupe. Quand les blessés vont revenir, ça peut tout changer. Ça veut dire que ce club attend toutes ses joueurs et rien de son entraîneur. Donc autant en prendre un autre, non ?
C'est signé Virginie Fulpin, l'édito sport, à partager sur les réseaux sociaux notamment. Tiens Virginie, puisque je vous tiens, cette voix que vous connaissez, il jouait hier son premier match au Rolex Paris Masters, Rafael Nadal. Premier match, millième victoire de sa carrière sur le circuit ATP. C'est le quatrième homme à rejoindre ce club des 1000 victoires. Écoutez sa réaction juste après. La chose négative quand vous gagnez votre millième match, c'est que ça veut dire que vous êtes vieux, que vous avez une longue carrière. Mais j'en suis très heureux. Assez humble, ouais. Raphaël Nadal.
Ouais, bah on peut devenir vieux sans avoir gagné 1000 matchs.
Oui, moi, il faudrait que ce soit très très vieux, parce que pour 1000 victoires, il faudrait au moins 9000 défaites. C'est ça le problème. Ils sont 4, hein. Vous les avez, les 4 à atteindre 1000 victoires ?
Connor, jouer avec Slendel et Federer ?
Bah, c'est parfait, sans faute. Voilà. 7h27, rien de plus à ajouter. Et on retrouve Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui, une expression qui va vous parler, Mathieu. Je ne sais pas si vous l'utilisez souvent, en tout cas, vous la ressentez ça, j'en suis sûr. Parfois, peut-être même pendant la matinale d'Europe 1. Cette expression, c'est « avoir la dalle ». Mais d'où vient cette expression ?
J'ai aucune idée d'où ça vient, mais si vous pouviez éviter de dévoiler toutes les coulisses de la matinale, ça m'arrangerait.
Promis, je ne le ferai plus jusqu'à la semaine prochaine. La dalle vient de Daïla. En ancien scandinave, cela signifie évier ou gouttière, et d'une manière générale, un tuyau creux qui permet un écoulement. Au XIVe siècle, la dalle désigne directement la gorge, et par extension l'œsophage, de quelqu'un qui lève facilement le coude. Une expression apparaît « avoir la dalle en pente ». Cela veut dire qu'on écoule facilement la boisson. Petit à petit, on a gardé « avoir la dalle » en désignant les personnes ayant un sérieux appétit. Tout le monde a utilisé une fois dans sa vie l'expression « crever la dalle » ou « être un dalleux », une personne dont la goinfrerie n'est jamais satisfaite. Mais attention, « avoir la dalle » n'est pas à confondre avec « avoir de la dalle », qui signifie « avoir de l'oseille », la dalle désignant des pièces d'argent en Allemagne. Quand on crève la dalle en Espagne, on dit « tener hambre de lobo », avoir une faim de loup. En Israël, on souffre d'une tempête affamée. Par contre, méfiez-vous si un Québécois dit d'une personne qu'il a des croûtes à manger, c'est qu'il a encore de l'expérience à acquérir. Comme quoi, rien n'est simple dans le monde des expressions.
Bon, on va quitter la table du petit déjeuner, puis vous retrouvez à l'heure du 4h, 16h tout à l'heure, historiquement vôtre.
Oui, il n'y a pas de hasard, mais un peu quand même. On réunit trois chanceux de l'histoire que l'on n'a pas choisis par hasard. Christophe Colomb, arrivé en Amérique par hasard, Alexander Fleming, qui a découvert la pénicilline par hasard, et Harrison Ford, devenu Han Solo dans Star Wars, alors qu'il était charpentier sur un chantier chez un certain George Lucas. Bref, on vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Mathieu Noël, de 16h à 18h sur Europe 1.
À tout à l'heure, 16h. Vous êtes sur Europe 1, merci Stéphane Bern, 16h tout à l'heure pour Historiquement Vôtre, et j'accueille Jérôme Lacroix en studio avec nous. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est presque 7h30.
Présidentielle américaine.
USA 2020.
Europe 1, au cœur de l'événement.
Guys, this is fraud.
Bon les amis, c'est de la fraude. C'est littéralement de la fraude. Ils essaient de nous voler l'élection.
Eric Trump, tel fils, tel père, nouvelles accusations de triche sur un scrutin présidentiel américain qui semble pour l'heure échapper à un camp Trump qui multiplie les recours. L'espoir vif dans les rangs démocrates. Nous serons à Washington dans ce journal avec les supporters de Joe Biden rassemblés sous les fenêtres de Donald Trump près de la Maison Blanche. Et puis plus de 4000 malades du coronavirus en réanimation en France. Le reconfinement est-il suffisamment respecté ? Il semblerait que non, d'après certaines données informatiques de nos déplacements.
Juste après ce journal, cette bataille juridique qui s'enclenche. Mon invité, Alan Dershowitz, avocat de Donald Trump, lors du procès en destitution, spécialiste de la Constitution américaine, le tête-à-tête Europe Matin, avant l'édito politique de Nicolas Bétou et Nicolas Canteloup, qui coach à sa manière l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe One. Écoutez le monde changer.
Nous serons aux États-Unis dans un instant, mais d'abord 5 novembre 2020, aujourd'hui jour singulier pour la lutte contre le harcèlement scolaire.
C'est la première journée mondiale consacrée à la lutte contre ce fléau qui peut toucher chacun de nos enfants. 10% d'entre eux en seraient victimes selon les estimations, un enfant sur 10. Le cyberharcèlement notamment explose en France, plus 26% depuis septembre 2019.
Écoutez ce témoignage européen bouleversant. Kaina a 9 ans. Harcelée pendant toute une année scolaire, elle était en CE1. Elle raconte à Virginie Riva ce terrible engrenage.
Au départ, il y avait une fille qui ne m'aimait pas. Et elle a dit à son amie de ne pas m'aimer parce que sinon j'allais lui faire des problèmes. Il avait beaucoup d'amis dans la classe et il a dit à tout le monde de ne pas me parler. Du coup, ma mère, elle est venue pour parler à l'enfant. Et l'enfant, il a dit que ma mère, elle l'avait tapé à sa mère, et du coup sa mère elle a parlé à la directrice, et la directrice elle l'a cru, et elle a pas cru ma mère. Et du coup, toute la classe elle s'est retournée contre moi et on a changé d'école. Plus personne ne me parlait et il m'embêtait. Il me tapait et il me disait des insultes. J'aime quand même l'école, mais je dois aller voir un psy, parfois.
Témoignage impressionnant, témoignage très fort de Kaina, 9 ans, son innocence harcelée pendant un an à l'école et contrainte de changer d'école. Elle se confiait au micro de Virginie Riva pour Europe 1.
Aux États-Unis, avantage Joe Biden pour l'heure victorieux cette nuit du Wisconsin et Michigan. L'Arizona ne devrait pas lui échapper, il compterait 264 grands électeurs, il lui en faut 270.
Donald Trump en compte 214 et déjà il multiplie les recours judiciaires. Il demande que les voix du Wisconsin soient recomptées, mais aussi qu'on arrête le dépouillement en cours en Pennsylvanie.
Et c'est justement depuis cet état-clé à Pittsburgh qu'Eric Trump, l'un des fils du président sortant, a réitéré des accusations de triche.
Guys, this is fraud.
Bon les amis, c'est de la fraude. C'est littéralement de la fraude. Nous l'avons déjà vécu à Philadelphie dans le passé. Ils essaient de nous voler l'élection. Mon père est devant, avec au moins un demi-million de voix de plus. Donc nous sommes ici aujourd'hui avec nos avocats et nous allons ouvrir une procédure en Pennsylvanie. C'est une honte qu'on ait à faire ça. C'est la dernière chose que mon père veut faire, mais c'est de la corruption rampante. Et ça ne peut pas se passer comme ça. C'est injuste.
Donald Trump, lui, suit l'évolution du scrutin depuis la Maison-Blanche.
Bonjour Mathieu Bock.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Washington pour Europe 1, aux abords de la Maison-Blanche. Tous les soirs, les supporters des deux camps se réunissent et les démocrates pleins d'espoir ne baissent pas pavillon.
Oui, ils patientent. Jusqu'au bout de la nuit, certains écoutent de la musique, d'autres, capuche sur la tête et foulard sur le nez, discutent et fument cigarette sur cigarette. Tous sont maintenus à bonne distance de la Maison-Blanche par des barrières anti-émeutes. Qu'importe, ils y ont accroché des centaines de photos de victimes de violences policières, des messages et des fleurs. Calvin, un jeune étudiant noir, attend, adossé à un pylône. Il espère que les résultats tomberont ce soir.
Je suis là car l'histoire peut s'écrire à tout moment. Et si j'ai de la chance, je peux y participer. On est sous les fenêtres de Trump ici, il est peut-être dans sa chambre ou n'importe où dans la Maison Blanche. Et si lorsque les résultats tombent, je suis ici et lui là-bas, ce serait un symbole parfait, historique.
Le coup de force de Trump quand il a demandé à arrêter le décompte des voix n'a pas choqué Jessica plus que ça. Elle savait qu'il allait tenter de tricher.
C'est une blague, tout le monde s'y attendait, donc non, rien de choquant. On se doutait qu'il allait annoncer sa victoire avant même la fin du vote. C'est juste Trump qui fait du Trump.
Tous attendent maintenant les résultats, mais la plupart, fatigués par ces deux nuits d'angoisse, sont déjà rentrés chez eux.
Mathieu Bock, envoyé spécial d'Europe 1 à Washington.
Je viens de découvrir une expression, it's trumping Trump, c'est Donald Trump qui fait du Trump. Alors on a un président américain dans la Maison Blanche qui tweet, Yannick Mirror, je rappelle que vous êtes avec nous tout au long de cette matinale, fondateur de la revue Politique Américaine. Et on a son fils qui crie à la fraude, à la corruption rampante, toutes ces procédures, tous ces avocats lancés dans les différents états, Wisconsin, Michigan, c'est de l'agitation. Ça a un vrai sens, ça peut aboutir pour Donald Trump ?
Écoutez, il y a déjà une chose, c'est que ce qu'on peut vraiment facilement observer, c'est que le mot d'ordre est donné. J'étais hier sur une chaîne étrangère avec un représentant des Républicains en France, et c'est déjà automatiquement ce langage rodé, établi, de fraude, prétendue, parce que pour l'instant, rien n'est démontré, rien n'est avancé, c'est pas très sérieux encore. Donc évidemment, ça jette la suspicion sur les motifs réels du côté de la campagne Trump. Premier point. Deuxième point sur les procédures. Bon, mais forcément, on a bien compris depuis qu'on discute depuis 24 heures de cette élection que c'est un État fédéral, que les lois ne sont pas les mêmes d'un État à l'autre pour, par exemple, le dépouillement, ne serait-ce que le dépouillement. Donc c'est un patchwork assez compliqué. Il faudra regarder, évidemment, attendre et regarder dans le détail. Pour ce qui est de la Cour suprême, si c'est plutôt ça la grande question politique à lancer Donald Trump, le président ne saisit pas lui-même la Cour suprême. Il faut d'abord passer, lorsqu'il y a un litige, par la Cour suprême des États, parce que chaque État a sa Cour suprême, comme il a son Congrès.
Pour ensuite, si j'ai litige dans le Wisconsin, je saisis la Cour suprême du Wisconsin avant de penser à Washington.
Prenez plutôt l'exemple de la Pennsylvanie, puisqu'il y a un litige qui a été,
levé par le fils de Donald Trump,
et qui a été d'ailleurs levé par la Cour suprême à Washington, 4 contre 4, alors qu'elle est dite... Elle est à majorité conservatrice. À ce moment-là, il manquait d'ailleurs la juge Barrett, donc ça faisait égalité absolue. Mais ça passe d'abord par là.
Yannick Mirreur, politologue, spécialiste des États-Unis en studio avec nous ce matin.
Et puis j'ajoute déjà une promesse réaffirmée par Joe Biden avec précision. S'il est élu, sur Twitter, il annonce que son administration rejoindra l'accord de Paris sur le climat dans précisément 77 jours, soit au lendemain de son investiture. Les États-Unis, où près de 100 000 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés hier, du jamais vu dans le pays en 24 heures. En France aussi, l'épidémie progresse encore. Plus de 4 000 malades désormais en réanimation, un seuil qui n'avait plus été atteint depuis fin avril.
Et cette question, je suis sûr que vous voulez tous poser, tous et toutes. Le reconfinement est-il suffisamment respecté? On a un premier indicateur ce matin. Les données de nos déplacements enregistrées par Google et Apple, qu'est-ce que ça nous apprend, Clément Le Saffre?
Eh bien, grâce aux données d'Apple, on constate que le deuxième confinement est plus lâche que le premier. En mars, lors de la première semaine après sa mise en place, nos déplacements en voiture avaient chuté de 80% par rapport à la normale. Cette fois, on observe bien une baisse, mais elle n'est que de 40%, on utilise deux fois plus notre voiture. Même chose pour les transports en commun, chute de 90% en mars, et là, c'est plutôt 40%, et c'est encore plus frappant pour les déplacements à pied, baisse de 80% en mars, contre seulement 55% aujourd'hui. De son côté, Google mesure la fréquentation de certains lieux publics, il manque encore des données, mais on peut déjà comparer le premier jour de chaque confinement, et là aussi, on voit clairement que nous sortons plus. La baisse de fréquentation des commerces était de 60% le 30 octobre contre 70% le 17 mars. Même tendance dans les parcs et les stations de transport en commun. Résultat, toujours selon Google, eh bien, nous passons un peu moins de temps chez nous qu'au printemps.
Et à partir d'aujourd'hui, nouveau huis clos en Angleterre. 56 millions d'habitants reconfinés au moins pour un mois. L'Angleterre où les footballeurs rennais ont perdu hier en Ligue des Champions 3-0 à Londres contre Chelsea. Défaite aussi du Paris Saint-Germain à Leipzig 2-1. Après l'OM également battu mardi soir, c'est un 0 pointé pour les clubs français cette semaine dans cette compétition.
Jérôme Lacroix, c'était le journal de 7h30. Merci Jérôme.
Présidentielle américaine. USA 2020. Europe 1, au cœur de l'événement.
Mathieu Béliard.
Et c'est une voix qu'il faut entendre ce matin. La voix de la France. Jean-Yves Le Drian, invité politique d'Europe Matin. Le scrutin américain, bien sûr, avec le ministre des Affaires étrangères. Biden ou Trump, les enjeux diplomatiques, les enjeux économiques aussi. Et ce sera l'occasion, bien sûr, de revenir sur la crise franco-turque, le boycott français dans les pays arabes. Il n'a pas pris la parole depuis. Jean-Yves Le Drian répondra aux questions de Sonia Mabrouk. C'est à 8h15. Tout de suite, aux États-Unis, nous appelons l'avocat Alan Dershowitz. Il a défendu Trump lors de la procédure d'impeachment. Il a défendu O.J. Simpson, Jeffrey Epstein. Il a travaillé avec Clinton, Gore. C'est un spécialiste de la Constitution américaine et il a choisi Europe 1 pour réagir ce matin. Donald Trump accuse les démocrates de voler l'élection. Une bataille juridique va s'ouvrir. Alan Dershowitz, invité du tête-à-tête Europe Matin dans une minute.
Europe Matin, le 7-9.
Europe 1 live for the American election.
Et nous sommes en studio sur Europe 1 avec Yannick Mirreur, politologue spécialiste des États-Unis. Merci de nous accompagner. Alors je vais jouer au français, pardonnez-moi, hein, parce que je suis pas convaincu que tous nos auditeurs soient capables de placer les Dakota comme ça, au doigt mouillé, de placer le Nebraska d'un seul coup. Et on est devenus des experts de la carte des États-Unis avec ses couleurs, ça scintille, ça clignote, un peu de bleu de ce côté-là, un peu de rouge ici. Qu'est-ce que ça nous apprend de la société américaine? Qu'est-ce qui a changé? Je voudrais quand même rappeler qu'on a une participation record aux États-Unis, que Joe Biden a plus de voix que Barack Obama en 2008. Faut peut-être le souligner, ça. Que Donald Trump a, lui, 4-5 millions de voix de plus qu'il y a 4 ans. Il se passe des choses aux États-Unis.
Oui, il y a des choses que l'on voit, les cartes sont un bon exemple parce qu'elles ne bougent pas beaucoup, la carte, à part quelques états bascules, comme l'Arizona par exemple, qui depuis déjà longtemps n'a pas voté pour un président démocrate. Et puis il y a des choses qu'on ne voit pas, parce que ce sont les choses sous-jacentes qui sont lentes à se mettre en place et à produire leurs effets, des effets visibles. Je veux parler en particulier de la polarisation. La première leçon de cette excitante, mais tout de même assez dramatique élection aux États-Unis, c'est la polarisation de la société américaine. Il y a vraiment deux visions aux États-Unis, deux ressentis qui deviennent de plus en plus irréconciliables, y compris au sein même des familles quand même, parce qu'il faut bien voir que la chose est très source de tensions très fortes, parfois donc au sein des mêmes familles. Cette polarisation, elle est en cours depuis déjà pas mal d'années, depuis une vingtaine d'années, et elle nous renseigne sur la radicalisation, en quelque sorte, des partis républicains et démocrates aux États-Unis, notamment le parti républicain depuis l'élection de George W. Bush et jusqu'à Trump, qui est, selon moi, plus le symptôme qu'une cause. Il est simplement le symptôme d'un parti qui a perdu sa quille, qui n'a plus de corpus idéologique, est en manque de leader, et donc s'est retrouvé, en fait, un peu malgré lui, pris en otage autour de Trump, puisque quand vous avez un gagnant, bon, ça, évidemment, ça fait un écrin, un appel d'air.
Ça, c'est pour les républicains. De l'autre côté, on a beaucoup parlé de l'évolution démographique qui devait bénéficier aux démocrates. Alors, on n'a pas la vague bleue.
Vous avez un décalage entre les réalités de l'évolution démographique et le parti. Le parti démocrate, c'est le grand bazar, quand même. Il est traversé de courants, il a toujours été des gens qui ne sont pas du tout d'accord. Même si face à Trump, bon, et à la personnalité plutôt conciliante d'un Biden qui ne polarise personne, et à celle aussi de Kamala Harris tout de même, parce que le ticket c'est important, c'est un équilibre, ils vont peut-être remporter ce pari-là. Mais les évolutions démographiques, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il y a plus de population sur les centres urbains que les minorités, même si elles ne votent pas du tout systématiquement démocrates, prennent leur place dans la société américaine et que les aspirations sont nouvelles et qu'à mesure que vous avez un renouvellement surtout générationnel, et c'est la même chose d'ailleurs en France et en Europe, des attentes et des visions du pays qui sont nouvelles. Et je pense que ce à quoi on assiste, ce que Trump représente, est quelque chose qui est en train de petit à petit est destiné à disparaître, à se fondre au profit d'autres visions alternatives. Et sans doute que le taux de participation électorale, par exemple, est un indicateur intéressant. Je pense que des gens plus matures ou plus âgés, voire retraités, ont voté plus que des plus jeunes, par exemple.
Yannick Mireur, il est 7h44. Peut-on imaginer de la fraude dans l'élection du président des États-Unis d'Amérique ? Mon invité est un spécialiste de la Constitution américaine, avocat de nombreuses célébrités outre-Atlantique. Il a défendu Donald Trump lors de son procès en destitution en janvier dernier. Et il a choisi Europe 1 ce matin, l'avocat américain Alan Dershowitz.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Bonjour Alan Dershowitz.
Hi, how are you?
Très bien, merci. Question simple pour démarrer. Est-ce que vous travaillez avec la campagne Trump ce matin, avec les avocats de Donald Trump?
Non, pas du tout. Je suis un démocrate libéral. J'ai juste travaillé avec le président Trump sur sa procédure de destitution, que je pensais être anticonstitutionnelle. Mais en général, je suis un démocrate. J'ai travaillé avec Al Gore il y a 20 ans, donc je ne suis pas un républicain. Je n'ai pas du tout travaillé avec l'équipe de campagne de Donald Trump.
Bush Gore, il y a 20 ans, justement, on se rappelle, hein, des bulletins à recompter, ça peut durer longtemps, Alan Dershowitz. On va aller jusqu'à la Cour suprême.
C'est possible, ça dépend du vote en fait. Si la Pennsylvanie est le scrutin crucial, ce qui ne semble pas être le cas, hein, mais si c'est le cas, alors les républicains auront des arguments pour saisir la Cour suprême et pour faire annuler des votes qui sont arrivés après leur limite. Mais si Biden gagne sans la Pennsylvanie, s'il gagne avec le Nevada, avec l'Arizona, alors il n'y a pas de quoi saisir la Cour.
La seule certitude ce matin, c'est que l'Amérique est divisée, déchirée.
L'Amérique est déchirée depuis de nombreuses années. Mais là, nous sommes vraiment divisés entre conservateurs et libéraux, républicains et démocrates. Les gens ne se parlent plus. Et le président Trump, bien sûr, a exacerbé ces tensions avec le langage qu'il a utilisé. Et je pense que Joe Biden a promis qu'il essayerait de rassembler les Américains, qu'il serait le président de tous et pas seulement de ceux qui ont voté pour lui.
Vous êtes un expert de la Constitution, un défenseur de la Constitution. Donald Trump a demandé à ce qu'on arrête de compter les bulletins. Il revendique sa victoire. L'actuel président teste les institutions. Que pensez-vous de son attitude ?
Oui, il est en train de tester la Constitution, mais je pense que la Constitution va survivre à cette épreuve. Rappelez-vous quand il a déclaré qu'il avait gagné. Beaucoup de républicains dans son propre parti l'ont dénoncé, l'ont rejeté et lui ont dit que non, c'était faux. Et s'il essayait d'arrêter le dépouillement des bulletins, je pense qu'il n'aurait pas le soutien de son parti. Donc oui, il met la démocratie à rude épreuve, mais elle est en train de tenir.
Mais la Constitution, est-ce que c'est vraiment son souci à Donald Trump ?
Je ne pense pas que beaucoup d'Américains s'intéressent à la Constitution. Pour la plupart d'entre eux, c'est quand ça les arrange, ils la brandissent quand ça les aide et ils l'ignorent quand ça leur fait du mal. Donc, je pense juste que Donald Trump n'est pas très différent des autres Américains. Très peu de personnes croient vraiment la liberté d'expression pour tous, en l'égalité de traitement pour tous. C'est une partie du problème en Amérique. On n'a pas un véritable attachement aux valeurs constitutionnelles.
Donald Trump accuse les démocrates de fraude. La question des votes par correspondance en particulier, on en a beaucoup parlé. Croyez-vous qu'il puisse y avoir des fraudes dans l'élection présidentielle des États-Unis d'Amérique ?
L'élection parfaite n'existe pas. Toute élection a sa part de fraude, d'erreurs, d'électeurs empêchés de voter. Le but, c'est de minimiser la part de personnes empêchées de voter, quitte à accepter un peu de fraude. Mais je ne vois pas beaucoup de preuves de fraude dans cette élection. Il semblerait que ce soit l'élection la plus en règle qu'on ait jamais eue, parce que le monde entier regarde. On regarde pour s'assurer que la Russie, que l'Iran et d'autres pays n'interfèrent pas dans l'élection. Donc, je pense que ce sera finalement une élection très juste.
Je vais juste rappeler à nos auditeurs que vous vous présentez volontiers comme un démocrate, même si vous avez travaillé avec Donald Trump. Est-ce qu'à vos yeux, son combat est légitime, ou est-ce que ce matin, vous demandez à Donald Trump d'être raisonnable ?
Eh bien, je peux faire les deux. Je lui demande d'être raisonnable, bien sûr, mais être raisonnable veut dire qu'on peut saisir la Cour. Je pense que le plus important, c'est que s'il perd son jugement à la Cour, il doit accepter sa défaite, accepter une transition paisible et rendre le pouvoir s'il perd. Et j'attendrai ça de n'importe quel candidat. Donc oui, il peut se battre, mais à la fin, il faut qu'il se soumette aux décisions de justice.
O.J. Simpson, Jeffrey Epstein, vous avez de nombreux clients célèbres. Vous êtes vous-même un avocat star aux États-Unis, Alan Dershowitz. Qu'y a-t-il de spécial, de particulier à travailler avec le président Trump ?
Eh bien, j'ai travaillé avec beaucoup de présidents aussi, avec Al Gore, avec Bill Clinton, avec beaucoup de présidents et de premiers ministres. Ils représentent tous des défis différents. Et en fait, c'était très facile de travailler avec Donald Trump. Il avait confiance en mes capacités juridiques. Il me donnait beaucoup de liberté pour le défendre de la manière dont je voulais. C'était un plaisir immense de le représenter devant le Sénat américain. Il ne m'a posé aucun problème.
Une dernière question constitutionnelle. Quel que soit le résultat de l'élection, que peut faire Donald Trump dans les deux ou trois mois qui nous séparent de la fin de son mandat ? Je pense en particulier à l'international. C'est le commander-in-chief, Donald Trump. Est-ce qu'il a une marge de manœuvre ?
Bien, j'espère qu'il profitera des deux ou trois mois pour renforcer le processus de paix au Moyen-Orient. Je crois qu'il a dit qu'il pourrait ramener 7 ou 8 ou peut-être même 10 nouveaux pays dans ces accords de paix. Peut-être qu'il peut pousser pour deux États dans la crise palestinienne. Je pense qu'il peut faire beaucoup de choses en deux mois.
Mais vous ne craignez pas cette période en particulier ?
Je ne la crains pas. Tout le monde doit faire attention, mais nous avons des contre-pouvoirs. Le président seul n'a pas le pouvoir de faire ce qu'il veut. Et le Congrès, la Chambre des représentants sera toujours sous le contrôle des démocrates. Donc, ce n'est pas quelque chose que je crains. Je sais que beaucoup de gens... Oui, mais pas moi. J'ai espoir qu'il utilise ces deux, trois mois de manière très positive.
Est-ce que c'est la démocratie américaine qui est à l'épreuve, qui est en jeu ?
La démocratie américaine est toujours à l'épreuve. La lutte pour la démocratie n'est jamais finie. Je me souviens des défis des années 60. Je me souviens des défis du McCarthyisme. Nous avons toujours réussi et la démocratie américaine va survivre.
L'avocat Alan Dershowitz dans le tête-à-tête Europe Matin, l'un des avocats de Donald Trump lors de son procès en destitution, l'impeachment, un expert de la Constitution. Ce matin, une analyse, un regard. Merci d'avoir choisi Europe 1 ce matin.
My pleasure, thank you.
Donald Trump met la démocratie à rude épreuve, mais elle est en train de tenir, nous dit Alan Dershowitz, l'élection la plus en règle qu'on ait jamais eue. Le monde nous surveille, nous disait-il ce matin sur Europe 1, 7h51. Vous restez avec nous à suivre l'édito politique de Nicolas Béthou.
Présidentielle américaine. USA 2020. Europe 1, au cœur de l'événement.
Mathieu Béliard.
Il est 7h53.
La Caisse d'épargne vous présente l'édito politique de Nicolas Béthou. Caisse d'épargne, vous être utile.
Bonjour Nicolas Béthou.
Bonjour Mathieu.
Alors on est toujours dans ce suspense, avantage Biden, mais toujours un suspense sur l'issue du scrutin américain. On connaît déjà la plupart des motivations des électeurs.
Oui, et on commence à comprendre là où la plupart des observateurs se sont trempés sur le score de Trump. On le sait, une grande partie de la campagne s'est focalisée sur la gestion du Covid. Une gestion catastrophique selon la plupart des commentaires, calamiteuse selon tous les médecins qui se sont exprimés. Et c'est vrai que de manière caricaturale, on avait d'un côté un Biden ultra prudent et même timoré, et de l'autre un Trump lui-même guéri du Covid et qui envoyait balader tous les gestes barrières dans des meetings où le port du masque était carrément mal vu de ses partisans. Eh bien, c'est cette option basée sur la liberté et la défense de l'économie face à la maladie et à la santé qu'il a emporté.
Malgré le nombre de morts.
En tout cas, Joe Biden, qui avait beaucoup misé sur la dénonciation des folies de Trump, n'a pas engrangé autant qu'il l'espérait. Le quoi qu'il en coûte n'a pas été la préoccupation première de près d'un Américain sur deux.
Et quel est le thème qui a le plus compté ?
It's the economy, stupid. C'est merci, l'économie Nicolas. Qui compte, pauvre imbécile. Mais non, c'est une citation, bien sûr. Pas une agression contre qui que ce soit. Cette phrase est célèbre. Elle date de la campagne victorieuse de Bill Clinton en 92 et Donald Trump peut parfaitement la revendiquer aujourd'hui. C'est un fait. Rarement les programmes économiques, fiscaux, sociaux de deux candidats à la Maison-Blanche ont été aussi radicalement opposés. Trump a promis de poursuivre sa politique très généreuse en matière d'impôts à la fois ceux des particuliers, ceux des entreprises, avec une bonne dose de protectionnisme. Avant d'être fauché par le Covid, l'économie US affichait un chômage historiquement bas et une hausse des revenus, elle aussi historique.
Et Joe Biden ?
Un des meilleurs connaisseurs de la politique américaine me disait il y a quelques jours que la victoire de Biden allait amener au pouvoir une administration probablement la plus à gauche depuis les années 60 ou peut-être les années 30. Augmentation des impôts, taxation des plus riches et des entreprises, assurance santé, le candidat démocrate a tapé fort, d'ailleurs commis quelques bourdes, hein, par exemple en promettant au nom du climat, je cite, de s'éloigner de l'industrie pétrolière, un secteur qui fait juste vivre des millions de familles. Et c'est sûr qu'au Texas, par exemple, ça a beaucoup joué. Voilà, on commence à voir de quel côté va pencher la balance, mais le score tellement élevé de Trump démontre une fois de plus que dans ce pays si attaché au business, à la liberté d'entreprendre, à l'initiative personnelle, se tromper de choix, se tromper de campagne sur l'économie, it is stupid.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins sur Europe 1, juste avant 8h.
C'était l'édito politique de Nicolas Bétou avec la Caisse d'épargne mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Et tous les matins, nous retrouvons Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Jean-Yves Le Drian et c'est François Hollande qui est venu donner un petit conseil au ministre des Affaires étrangères.
Oui, bonjour, monsieur Bigard, bonjour, monsieur Bétou. Bonjour Yves, qu'est-ce qui lui arrive à mon Jean-Yves ? Mon Jean-Yves, c'était quand même plus peinard sous mon quinquennat. Il était petit pompier volontaire, bénévole du week-end avec son petit arrosoir, il n'avait rien à faire. Puis là, en deux phrases, Macron, il fout le feu au monde arabe et il doit devenir pilote de Canadair. Ben, bon courage, mon Jean-Yves. Hein, au passage, tu remercieras le gamin pour moi avec cette histoire il m'a flingué mon week-end que j'avais prévu à Djerba avec Juju. Ben oui, j'ai dû annuler, ça vous fait rire, vous.
7h57, c'est signé Nicolas Canteloup qui conseille l'invité politique de la matinale. Notez-le bien, c'est la première réaction française à ce qui se passe aux États-Unis. Première fois qu'il prend la parole aussi depuis les échauffements avec la Turquie. Jean-Yves Le Drian à 8h15, le ministre des Affaires étrangères. 7h57.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Les brouillards sont peu nombreux, les températures du matin sont un petit peu moins froides qu'hier. Les températures maximales entre 12 et 14 sur la moitié nord, 12 à Paris, et entre 16 et 20 sur la moitié sud. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi l'automne est une demeure d'or et de lumière.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Présidentielle américaine. USA 2020. Europe 1, au cœur de l'événement.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 8h.
Nous serons victorieux. Mais ça ne sera pas ma victoire. Ce sera une victoire pour le peuple américain, pour la démocratie, pour l'Amérique.
Joe Biden s'y voit déjà et commence même à parler comme un président élu, rassembleur au-delà des camps républicains et démocrates. Alors qu'on va le voir, le clivage, la polarisation sont au maximum. État d'urgence prolongé à Portland après des manifestations. Nous irons en Pennsylvanie en direct assister au dépouillement qui a commencé il y a plus de 24 heures dans cet état crucial, tandis que Donald Trump et ses partisans appellent à la suspension des décomptes. Et puis dans l'actualité, cette information Europe 1, vous saurez comment Emmanuel Macron s'implique très personnellement et décroche son téléphone pour renvoyer dans leur pays d'origine les 231 étrangers radicalisés que la France veut expulser.
Juste après ce journal, première réaction française en plein suspense électoral américain. Biden ou Trump, ça change quoi pour nous Français? Quel regard aussi sur l'extrême division de la société américaine? Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Écoutez le monde changer.
Depuis hier, la carte des États-Unis a un peu clignoté. Il y a toujours cette diagonale rouge républicain du Montana jusqu'à la Floride et ces États qui sont passés en bleu, le Wisconsin, le Michigan. Et si on compte l'Arizona, attribué à Joe Biden par l'agence AP qui fait référence, le démocrate a pour lui 264 grands électeurs, tout près des 270 qui le feraient rentrer à la Maison-Blanche.
Bonjour Xavier Yvon.
Hello again, bonjour à tous.
En direct de New York, avec nous, notre tour de contrôle des résultats, Xavier Yvon. Est-ce que tout est perdu pour Donald Trump?
Alors, ce n'est pas encore totalement perdu pour Donald Trump, puisqu'on dépouille encore dans trois États indécis. Il lui reste un chemin, comme on dit ici, vers les 270 grands électeurs, mais un chemin très étroit. Donald Trump doit remporter tous ces États qui dépouillent encore pour rester président. Celui qui a un boulevard, en revanche, c'est Joe Biden. Il lui suffit d'un seul de ces États qui sont encore en train de compter pour l'emporter. Ça pourrait être la Géorgie. On nous promet des résultats bientôt, dans les prochaines heures. Il reste quelques milliers de votes à dépouiller. Joe Biden est en train de remonter son retard de manière spectaculaire dans cet État du Sud. Et il espère dépasser Donald Trump sur la ligne d'arrivée, comme il l'a fait hier dans le Michigan et le Wisconsin. Et puis, si ce n'est pas la Géorgie qui lui offre la Maison-Blanche, eh bien, ça peut encore être le Nevada ou la Pennsylvanie.
Mais alors, Xavier, hier, à cette heure-ci, on parlait d'une surprise en faveur de Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ?
Ce qui s'est passé depuis, c'est que le mirage rouge républicain s'est dissipé pour laisser la place à la réalité bleu démocrate. Hier, il manquait encore des dizaines de millions de votes par correspondance à dépouiller. Ils sont très majoritairement démocrates. Et donc, au fur et à mesure qu'ils ont été ajoutés dans la journée, bien les écarts qui paraissaient énormes hier en faveur de Donald Trump se sont petit à petit réduits. Je vous donne un exemple pour comprendre. En Géorgie, dont je vous parlais, en 24 heures, l'avance de Donald Trump a été divisée par 10, de 370 000 voix à 37 000. Et c'est pour ça que le président veut qu'on arrête de compter. Ses avocats ont déposé des recours pour qu'on stoppe le dépouillement en Pennsylvanie et en Géorgie.
Xavier Yvon, en direct de New York pour Europe 1. Le président sortant veut arrêter le dépouillement. Ses partisans, comme ici à Détroit dans le Michigan, le suivent évidemment.
Stop the count. Arrêtez le décompte. Bonjour Théo Banval.
Bonjour François.
Ce décompte que vous suivez, vous, en Pennsylvanie, à Pittsburgh, état majeur à l'heure qu'il est, puisqu'il compte pour 20 grands électeurs. Où en est-on ce matin, Théo ?
Eh bien là aussi, le dépouillement se poursuit et l'écart se resserre. Il reste 11% des bulletins à compter, 760 000 environ. Et Donald Trump n'a plus que 160 000 voix d'avance, 4 fois moins qu'hier. Or, les bulletins qui restent, c'est le vote par correspondance, les grandes villes qui doivent plus pencher pour Joe Biden. Les démocrates ont voté 3 fois plus par correspondance que les républicains. Donc les conseillers ici de Joe Biden se montrent plutôt confiants.
Et Donald Trump, lui, se méfie. On le dit, il dépose des recours, notamment devant la Cour suprême. La Cour suprême locale, celle de l'État où vous vous trouvez, pour faire suspendre ce dépouillement.
Oui, il estime qu'il n'est pas normal qu'on continue de prendre en compte les bulletins qui arrivent après le jour de l'élection. La loi ici permet de recevoir ces votes par courrier jusqu'à 3 jours après le scrutin, tant qu'ils ont bien été envoyés le jour J. Et ce recours a suscité cette nuit des manifestations d'électeurs, vous l'entendez, dans plusieurs grandes villes comme ici à Pittsburgh.
Il n'est pas acceptable que des gens votent et que leur voix ne soit pas prise en compte. Le président a tort là-dessus. N'importe quel dirigeant demandant à ce que des votes ne soient pas décomptés, c'est corrompre la démocratie.
Voilà, le gouverneur de Pennsylvanie a assuré que tous ces bulletins seraient bien pris en compte. On espère un dépouillement terminé ici en Pennsylvanie au plus tard d'ici demain vendredi.
Théo Manval, en direct de Pennsylvanie pour Europe 1. Vous l'entendez, ce matin, les Républicains parlent de fraude. Je voudrais un instant vous faire réentendre ce que disait il y a quelques instants sur Europe 1 l'avocat Alan Dershowitz, lui qui a défendu Donald Trump lors de sa procédure d'impeachment.
L'élection parfaite n'existe pas. Toute élection a sa part de fraude, d'erreur, d'électeurs empêchés de voter. Mais je ne vois pas beaucoup de preuves de fraude dans cette élection. Il semblerait que ce soit l'élection la plus en règle qu'on ait jamais eue, parce que le monde entier regarde. On regarde pour s'assurer que la Russie, que l'Iran et d'autres pays n'interfèrent pas dans l'élection. Donc, je pense que ce sera finalement une élection très juste.
Cet entretien avec l'avocat Alan Dershowitz, de votre tête-à-tête, Mathieu, il y a 20 minutes, c'est à retrouver sur Europe1.fr.
Xavier Yvon, on vous retrouve à nouveau en ligne depuis New York. Cette guérilla juridique nécessite du soutien, sauf que pour l'instant, le Parti républicain ne suit pas.
Ah non, non, les caciques, les pontes du Parti républicain pour l'instant ne veulent pas s'aligner derrière la guérilla de Trump, notamment le patron du Sénat, Mitch McConnell, qui a été réélu. Il dit qu'il faut aller jusqu'au bout du décompte, on ne peut pas se déclarer vainqueur comme ça. Même un ami, un proche de Donald Trump, Chris Christie, a dit la même chose. Et il y a aussi, par exemple, le gouverneur de l'Ohio qui, lui, a carrément dit « je suis pour Donald Trump, mais si à la fin ça doit être Biden, eh bien on doit tous accepter ça, il faut tout compter ».
Merci Xavier Yvon, en direct de New York pour Europe 1. 8h07, Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à la frontière franco-espagnole pour parler de lutte contre le terrorisme et immigration.
Bonjour Louis Dragnel.
Bonjour.
Du service politique d'Europe 1. Depuis l'attentat de Nice, le chef de l'État veut s'emparer, très personnellement, vous nous le révélez, de la question migratoire.
Oui, désormais, c'est le président qui décroche lui-même son téléphone, comme lundi, lorsqu'Emmanuel Macron a appelé son homologue tunisien pour lui demander de récupérer ses ressortissants radicalisés que la France veut expulser. Selon nos informations, Emmanuel Macron prévoit de faire la même chose avec les autorités marocaines et algériennes. Il faut savoir que parmi les 231 étrangers radicalisés que Paris veut renvoyer, plus de la moitié vient du Maghreb. Alors, ces coups de fil présidentiels ne sont pas donnés par hasard. Ils interviennent juste avant la tournée que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit effectuer à Malte, Tunis et Alger, précisément pour régler ces dossiers d'expulsion. Et je peux vous le dire ce matin, si le message ne passe pas bien, la France n'hésitera pas à réduire le nombre de visas qu'elle délivre chaque année et à revoir sérieusement, à la baisse, l'aide financière à ces pays. Une menace que la diplomatie française a toujours refusé d'agiter. Une menace qui, cette fois-ci, sur injonction présidentielle, pourrait bien être mise à exécution.
Merci, Louis Dragnel.
Alors Emmanuel Macron au téléphone et puis par courrier aussi. Il a envoyé une longue lettre à la rédaction du Financial Times.
La France ne se bat pas contre l'islam, écrit le président en réponse à un article paru lundi, puis retiré par le journal britannique, et dont Emmanuel Macron estimait qu'il déformait ses propos sur le séparatisme. Lui est censé être le grand méchant loup de l'économie et le grand gagnant des confinements. On aurait mal compris.
Je suis l'ami de toutes les entreprises françaises, déclare le patron d'Amazon France ce matin dans le journal Le Parisien.
Il répond aussi à Bruno Le Maire qui critiquait les grandes plateformes numériques. Nous ne sommes en aucune façon l'adversaire de l'État, déclare Frédéric Duval qui revendique d'avoir versé 420 millions d'euros d'impôts et taxes en 2019.
Vous avez peut-être entendu à 7h30 ce témoignage poignant d'une petite fille de 9 ans qui a subi du harcèlement scolaire et qui a dû changer d'école. Les cas de ce type sont en augmentation.
Oui, notamment sur Internet, plus 26% sur un an, selon l'association e-Enfance. La prévention, le plus tôt possible, c'est la clé. Reportage étonnant. Vous allez l'entendre avec des élèves de CM2 formés à repérer ce harcèlement. Virginie Riva pour Europe 1 dans une école du 19e arrondissement de Paris.
Ils sont réunis dans la salle de classe qu'ils utilisent pour recevoir leurs camarades en entretien d'une quinzaine de minutes sans adultes. Ces CM2 sont des médiateurs. Leur mission, repérer des conflits et tenter de résoudre la situation à leur niveau avant que ça ne devienne du harcèlement.
J'ai un ami, il avait eu un peu de fièvre dans la classe. Il est retourné 3 jours après à l'école. Il y a eu des rumeurs sur les réseaux sociaux qui disaient qu'il avait le Covid. Plein de personnes avaient peur et tout. Sauf que c'était juste une rumeur. Et donc moi je lui ai dit qu'il fallait plutôt en parler à la maîtresse que de garder ça pour toi. Et ça t'évacuait la chose.
Dans leur cahier de formation, les élèves ont noté une liste d'émotions. Peur, colère, honte, avec à côté leur manifestation physique. Pas évident de savoir interpréter les signaux d'alerte à 9-10 ans. C'est tout l'enjeu de la formation imaginée par leur directrice d'école, Micheline Chartami.
Les élèves qui ne parlent plus aux autres, les élèves qui ont des résultats qui chutent, ont mal au ventre, puis des conflits répétés avec d'autres personnes.
Si les faits se répètent ou sont graves, c'est alors un adulte qui prend le relais. La directrice fait également intervenir des agents de police pour les sensibiliser au cyberharcèlement.
Virginie Riva. Le foot, c'est mal parti pour que ce soit un club français qui remporte la Ligue des Champions. Mais on n'en est pas encore là. Le PSG battu 2-1 par Leipzig hier. Rennes 3-0 par Chelsea ce soir en Ligue Europa. Slavia Prague contre Nice à 18h55 et AC Milan contre Lille à 21h. En tennis, la millésima victoria de Rafael Nadal.
Je traduis, la millième victoire de Rafael Nadal depuis le début de sa carrière.
En fait, vous êtes complètement bilingue, Mathieu. C'était hier à Paris-Bercy face à Feliciano Lopez. Et voici ce que dit Nadal quand on l'interroge sur cette millième victoire de son parcours.
La chose négative quand vous gagnez votre millième match, c'est que ça veut dire que vous êtes vieux, que vous avez une longue carrière. Mais je suis très heureux, précise Rafael Nadal en anglais.
C'est sympa.
Dans le texte, il faut traduire toutes les langues.
C'est l'un des 4 seuls tennismen à avoir plus de 1000 victoires en compétition.
Merci beaucoup, François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1, 8h11.
Yannick Mireur, alors on a les yeux rivés sur les États-Unis. Je rappelle que vous nous accompagnez, vous êtes politologue spécialiste des États-Unis et on se pose les questions de ces procédures de Donald Trump. On a parlé des cours suprêmes par État, de la Cour suprême, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, notamment avec sa coloration conservatrice. Est-ce que les juges de la Cour suprême jugent en fonction de leur parti d'origine ou... Est-ce qu'ils interprètent le droit comme l'attendre de leur part ?
Non. C'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus sensible que ça. C'est tout à fait construit. Et donc la simplification à laquelle donne lieu Trump, qui jette un petit peu le discrédit sur cette Cour suprême qui est le temple de la démocratie aux États-Unis, est malvenue. Et d'ailleurs, j'en prends pour preuve, puisqu'on a beaucoup parlé de Pennsylvanie et que nous attendons les résultats de Pennsylvanie. La Cour suprême de Pennsylvanie, de l'État de Pennsylvanie, a jugé que l'on pouvait jouer une extension de 3 jours pour le dépouillement des bulletins. Et tout ceci n'a pas été cassé par la Cour suprême à Washington, qui a voté 4 contre 4, et pourtant une majorité conservatrice. C'est un très bon exemple du fait que la Cour joue différemment que les lignes partisanes que l'on commente à longueur de temps.
La lecture du droit, bien sûr, oui. Le droit d'abord. 8h12 sur Europe 1. Nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Invité exceptionnel, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, la voix de la France ce matin sur Europe 1 sur la situation américaine. Première réaction.
A tout de suite.
Europe 1 at the American election.
Europe Matin, le 7-9.
Europe 1 live for the American election.
8h15, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité sur Europe 1, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères.
Bienvenue et bonjour Jean-Yves Le Drian.
Bonjour.
Aux États-Unis, un scrutin contesté, c'est le scénario du pire ?
Écoutez, il est un peu trop tôt encore pour constater les résultats. Ce qui me frappe d'abord, c'est que c'est un vote historique. Historique par la tension que l'on a pu constater, mais historique aussi par l'ampleur de la participation. Les États-Unis, c'est une grande démocratie. Plus de 70% des Américains sont allés voter. C'est énorme. C'est un exemple, d'ailleurs, pour d'autres pays, ce qui montre l'importance de ce vote. Et puis, il n'y a jamais eu autant d'Américains à voter. Le président qui sortira des urnes, c'est lui qui aura eu le plus de voix dans l'histoire des États-Unis. C'est un élément très, très significatif. Pour le reste, c'est aux Américains de faire leur choix. Il faut que les comptages se poursuivent et que les institutions américaines valident le résultat. Pour l'instant, nous en sommes là.
Nous en sommes là, mais déjà, avec un Donald Trump qui conteste, qui demande un recomptage dans un premier État, est-ce qu'il y a le risque d'une grave crise qui s'installe ?
Je souhaite que non, parce que je considère que les institutions américaines sont solides. Il y a déjà eu dans le passé des tensions sur des résultats et le fonctionnement des institutions a permis de juguler ces difficultés. Ce dont il faut se rappeler, c'est que les États-Unis sont un État fédéral, et donc dans chaque État, il y a des dispositifs particuliers, et que la Cour suprême intervient qu'in fine, si nécessaire. Moi, je fais confiance dans la valeur démocratique des États-Unis pour aboutir à un résultat qui soit reconnu par tous.
Oui, confiance dans les valeurs démocratiques, mais il y a aussi les candidats et les hommes. Est-ce qu'il y a, monsieur le ministre, une inquiétude européenne française sur de possibles violences, voire des émeutes aux États-Unis ? Malheureusement, ce ne serait pas la première fois.
Non, nous souhaitons que les valeurs démocratiques l'emportent. Il n'y a pas de signe trop spectaculaire de menace de tension. Et j'espère que le bon sens l'emportera et que les États-Unis auront bientôt un président des États-Unis reconnu par tous et reconnu d'abord par la population américaine.
Ça, c'est très important. Reconnu par tous, c'est tout le défi. Si à la fin de tout ce processus, Joe Biden gagne, est-ce qu'il y a un risque d'avoir un président américain affaibli presque par défaut pour des millions d'Américains ?
Non, parce que dans le passé, le président élu de la plus grande puissance mondiale était respecté comme tel, y compris dans son propre pays. C'est vrai que les États-Unis subissent aujourd'hui une crise interne, peut-être de confiance, des fractures réelles qui se manifestent par la répartition des votes, mais il n'empêche que les États-Unis resteront la première puissance du monde, resteront un partenaire essentiel pour l'Europe, pour la France.
Vous n'avez pas de crainte, monsieur le ministre, pour un risque.
Renforcer la relation transatlantique dans cette nouvelle donne.
Mais vous n'avez pas de crainte pour un risque d'avoir une démocratie entachée malgré tout ?
Je pense que la responsabilité des acteurs américains sera d'éviter cette dérive et je pense qu'ils seront au rendez-vous. En tout cas, je l'espère.
Au moment où l'on parle, il y a un net avantage pour Joe Biden. Évidemment, la prudence reste de mise, mais c'est une nouvelle qui envoie un signal positif pour vous ?
Ah ben, nous n'avons pas à prendre position pour l'un ou pour l'autre. Le choix d'un président revient aux Américains. Il faudra ensuite que nous travaillions avec la personnalité élue et avec le nouveau gouvernement américain, quoi qu'il arrive.
De la même manière ?
Mais la différence majeure, c'est que depuis 4 ans, il y a eu une évolution. On ne reviendra pas au statu quo ante. On ne reviendra pas une espèce de bon vieux temps de la relation transatlantique. Le monde a bougé depuis 4 ans. Et ce qui a bougé aussi, c'est le fait que l'Europe a affirmé sa souveraineté depuis 4 ans. Elle a affirmé sa souveraineté dans le domaine sécuritaire, dans le domaine de la défense, dans le domaine de son autonomie stratégique.
Monsieur le ministre, certains disent que c'est un vœu pieux, qu'il faut encore ce sursaut.
C'est une réalité. Il y a, depuis 4 ans, l'Europe s'est dotée d'un fonds européen de défense. Depuis 4 ans, l'Europe s'est dotée d'une relation de défense beaucoup plus forte. Depuis 4 ans, l'Europe a affirmé sa volonté de faire en sorte qu'elle ait sur son propre territoire des champions économiques. Depuis 4 ans, l'Europe a manifesté sa volonté d'avoir une régulation numérique qui lui permette d'avoir de l'autonomie. Depuis 4 ans, l'Europe est sortie de sa naïveté et elle commence à s'affirmer comme puissance.
Ce n'est pas contre la... C'est un message, quel que soit le président.
C'est une réalité. Ce sont les deux. Il y a encore beaucoup de travail. Mais ce n'est pas contre la relation transatlantique. Au contraire, il nous faudra reconstruire désormais une nouvelle relation transatlantique qui soit un nouveau partenariat. Nous avons, avec les États-Unis, une longue histoire, des valeurs communes, des victoires communes, des combats communs. Il faut les poursuivre, même si nous avons eu depuis 4 ans des différentiels, des divergences majeures. Ça n'empêche que dans la lutte contre le terrorisme, nous sommes ensemble. Ça n'empêche que l'état de droit, nous sommes ensemble. Donc, c'est cette nouvelle donne qui va s'ouvrir aujourd'hui, quel que soit le président sera élu.
Quel que soit le président, M. Jean-Yves Le Drian, j'insiste encore une fois quand même sur l'état actuel du scrutin avec une contestation de Donald Trump. Imaginons un recomptage déjà dans un premier état. S'il y a un chaos américain, personne ne le souhaite, mais quelles conséquences pour nous Européens ?
Il y a déjà eu des recomptages dans le passé. Je rappelle que dans des élections moins tendues, il avait fallu attendre plusieurs dizaines de jours pour avoir les résultats définitifs. Donc moi je fais confiance aux institutions américaines pour valider le résultat.
Vous restez donc confiant ce matin malgré tout ?
Oui, tout à fait.
On va rester en Europe, Monsieur le Ministre, et en France avec le défi du terrorisme islamiste. Vous étiez déjà, Jean-Yves Le Drian, au cœur de la gestion des attentats en 2015. Est-ce que la menace aujourd'hui a déjà été aussi élevée dans notre pays aujourd'hui ?
La menace est grave, la menace est forte. Il y a des acteurs qui veulent remettre en cause nos fondamentaux. C'est nous qui sommes attaqués, nous, notre modèle, le modèle français, le modèle européen. La menace est grave partout en Europe et il faut s'en prémunir. J'ai connu les attentats de 2015. Il y a eu des évolutions depuis. En 2015, premiers attentats, il y avait deux organisations terroristes structurées, organisées, qui s'appellent toujours Daesh ou Al-Qaïda. Les deux organisations voulaient se doter d'un territoire, d'un califat, un territoire géré par la charia. C'était le cas de Daesh au Moyen-Orient, c'était le cas d'Al-Qaïda, en particulier dans le sud sahélien.
Et
ils n'ont pas
après,
réussi, mais ils ont mené par ailleurs des attentats organisés, projetés sur le territoire national. Rappelez-vous, nous sommes près des anniversaires du Bataclan. Et puis, les tentatives de mise en œuvre de territoires réservés à l'islam radical ont échoué parce que les Européens...
Oui, mais pourtant, monsieur le ministre, l'attaque de Vienne, c'est une multi-attaque qui rappelle d'ailleurs le mode opératoire des attentats de 2015. Oui. Et même si ce territoire prétendu islamique n'y est plus, eh bien les attaques de ce type-là sont encore présentes.
Ce que je veux dire, c'est que Daesh et Al-Qaïda existent toujours. Ils n'ont plus de surface territoriale, mais ils existent toujours clandestinement, ils existent toujours par leur réseau, ils existent toujours par la diffusion de propagande, et ils viennent d'annoncer, il y a peu de jours, leur volonté, l'un et l'autre, séparément, ce sont parfois deux organisations rivales, leur volonté de faire en sorte qu'on tape la France, qu'on tape l'Europe, et que le terrorisme se répande dans notre pays, pour essayer de le disloquer, parce que ce qui est en cause, c'est notre modèle. Regardez, ce qui s'est passé il y a quelques jours, dans les attentats qui ont lieu en France, ou les tentatives d'attentats, j'observe que ce qui est remis en cause, ce qui est ciblé, ce sont les symboles de ce que nous sommes. La liberté de la presse, la liberté religieuse et l'école, facteur d'émancipation.
Oui, mais en conservant, bien sûr, ces valeurs et nos libertés, monsieur le ministre, quelle réaction ? Par exemple, après la décapitation de Samuel Paty par un Tchétchène et l'attaque de Nice par un Tunisien, une partie de l'opposition réclame un moratoire sur l'immigration. Est-ce que c'est tabou pour vous comme débat ?
ceux qui disent ça oublient complètement que les victimes du terrorisme sont partout. Il y a eu du terrorisme en Tunisie, il y a eu du terrorisme au Maroc, il y a eu du terrorisme en Algérie, il y a eu du terrorisme partout. Donc cette menace des terroristes qui veulent remettre en cause un modèle de développement,
certes,
des valeurs, elle est partout.
Ministre,
et donc ce n'est
territoire.
Pas lié à l'immigration.
Mais pourquoi ne pas rétablir le contrôle systématique, par exemple, aux frontières ?
Il y a aujourd'hui un contrôle aux frontières.
Il n'est pas systématique.
Il y a un contrôle aux frontières, sans doute insuffisamment mené, mais qui doit être renforcé. Mais je ne fais pas le lien entre l'immigration et le terrorisme. Le terrorisme est mondial, le terrorisme frappe partout. Il frappe les musulmans comme d'autres citoyens. Et donc, il faut combattre ce terrorisme globalement. Et surtout, lutter contre les diffuseurs des messages de violence. Parce que la violence, les messages de haine qui sont diffusés sur les plateformes conduisent rapidement aux actions concrètes. Entre la haine virale et la violence réelle, il n'y a qu'un pas qui est assez rapidement franchi. Ce qui a changé depuis 2015, c'est en grande partie cela.
Mais vous étiez notamment en Algérie, en Tunisie, vous allez en Égypte et au Maroc. Qu'est-ce que vous leur dites à ces pays afin qu'ils récupèrent leurs ressortissants? Et là, on parle d'étrangers radicalisés encore sur le sol français.
Ça, c'est un autre sujet.
Oui, mais quand même,
il est clair
c'est la menace sur notre sol.
Les étrangers en situation irrégulière et en situation de radicalisation doivent être retournés dans leur pays d'origine, ça c'est clair.
Sauf que les pays ne les acceptent pas.
Ce n'est pas toujours le cas et ils sont conscients, nos interlocuteurs, que cette menace-là les touche aussi. C'est le message que nous avons transmis aux Tunisiens, que nous allons transmettre aux Marocains, aux Algériens et à d'autres, pour que tous ces individus radicalisés et en situation irrégulière puissent retourner dans leur pays d'origine et faire l'objet des poursuites judiciaires indispensables.
Vous faites passer le message, mais également le président Emmanuel Macron, c'est une information européenne ce matin, qui a appelé directement notamment le président tunisien, qui va continuer à appeler les dirigeants des pays du Maghreb. Je vois que vous le confirmez par un hochement de tête. Mais, monsieur le ministre, quel moyen de pression? Que leur dit le président?
Nous avons des dialogues, je crois, assez francs avec nos partenaires pour leur faire prendre conscience de cette réalité qu'ils connaissent bien, parce qu'ils l'ont vécu dans leur chair, et faire en sorte que ce combat contre le terrorisme soit partagé par tous.
Mais comment? Qu'est-ce qui empêche la France, très concrètement, de suspendre les visas et ou les aides pour les pays qui ne coopèrent pas?
Je vous dis que je sépare totalement la migration du terrorisme, parce que le terrorisme est partout, et les pays qui sont des pays de départ de migration sont aussi victimes du terrorisme. Ce qu'il faut, c'est effectivement réguler les flux, faire en sorte que le droit d'asile soit respecté et qu'il ne soit pas embourbé par des contrôles insuffisants sur les migrations irrégulières. C'est l'objectif de la visite du président aujourd'hui sur la frontière espagnole.
Monsieur le ministre, la France est confrontée à une campagne de haine dans différents pays musulmans. Est-ce qu'il y a une responsabilité indirecte d'Erdogan dans les attaques terroristes sur notre sol?
Dans les relations avec la Turquie, nous avons des divergences profondes depuis plusieurs années qui nécessitent de la part des autorités turques des clarifications, surtout quand il s'agit d'un allié, puisque je rappelle que la Turquie est membre de l'Alliance Atlantique.
Un allié ?
Un allié, puisque la Turquie est membre de l'Alliance Atlantique.
Oui, ça c'est une réalité, mais c'est un allié aujourd'hui ?
C'est la raison. Non, je dis que c'est un allié parce qu'il est membre de l'Alliance Atlantique.
Oui, mais est-ce que c'est un allié
donc,
dans les faits,
entre
monsieur
alliés,
le ministre ?
Il y a des clarifications qu'il faut faire. Et les clarifications, doivent avoir lieu au niveau de l'action agressive de la Turquie dans l'environnement européen, que ce soit en Libye, en Méditerranée orientale, dans le Haut-Karabakh ou même dans le nord Irak. C'est indispensable que cette clarification ait lieu, mais il y a eu une nouveauté.
Laquelle ?
Depuis quelques jours, nous avons changé de nature dans les discours du président Erdogan à notre égard et à l'égard de l'Europe. Parce qu'il y a maintenant des déclarations de violence, voire de haine, qui sont régulièrement affichées par le président Erdogan, qui sont inacceptables.
Et donc, comment on réagit ?
Dans cette perspective-là, ce n'est pas d'ailleurs uniquement la France qui est visée, puisqu'il y a une solidarité totalement européenne sur le sujet, y compris à l'égard du président de la République. Nous voulons très, très fermement que la Turquie renonce à cette logique-là. Et si d'aventure ce n'était pas le cas, le Conseil européen c'est-à-dire ce conseil qui réunit les chefs d'État et de gouvernement des 27 membres de l'Union européenne, a décidé qu'à sa réunion de décembre, il prendrait les mesures nécessaires à l'encontre des autorités turques.
Donc il importe. C'est-à-dire, quelles mesures nécessaires ? Monsieur le ministre, on parle d'un pays tient les djihadistes à la frontière syrienne. On parle d'un pays sur lequel on n'a pas de moyens de pression pour le moment.
Il y a des moyens de pression. Lesquels ? Il y a un agenda de sanctions possible. Il importe maintenant aux Turcs de prendre les mesures nécessaires pour éviter cette dérive.
Monsieur le ministre, pour conclure, on a évoqué aujourd'hui une instabilité dans le monde entier. Il y a la situation d'incertitude américaine, la pandémie que nous connaissons, le risque terroriste. Quelle perspective dans un tel monde pour conclure ?
Vous avez raison, nous sommes dans une situation de grande brutalisation des rapports mondiaux, une grande période d'épreuve pour notre pays. Dans ces cas-là, il y a, à mon avis, trois orientations à prendre ensemble. La détermination, d'abord, la fermeté. Le calme, indispensable. Et puis se serrer les coudes. Nous sommes devant une épreuve qui nous concerne tous et la France doit se retrouver pour l'affronter.
Merci. Merci, monsieur le ministre Jean-Yves Le Drian, d'avoir accordé votre première réaction aujourd'hui sur Europe 1.
Merci, Sonia Mabrouk. Il est 8h29. Europe 1
at the American election. Europe Matin, le 7-9.
Europe 1 live for the American election.
8h32 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani.
Joe Biden prêt, tout près de la Maison-Blanche. Si on compte l'Arizona où les résultats ne sont pas encore officiels, le candidat démocrate décroche 264 grands électeurs sur 270. Autrement dit, encore 6 et c'est gagné. Ça va se jouer dans le Nevada, en Géorgie et en Pennsylvanie. Hier soir, depuis son QG de Wilmington dans le Delaware, il s'est voulu prudemment optimiste.
Je ne suis pas ici pour déclarer que nous avons gagné. Mais je suis ici pour vous dire que quand les décomptes seront terminés, nous croyons que nous serons les vainqueurs.
Quand les décomptes seront terminés, dit Joe Biden, c'est toute la question. En Pennsylvanie, la fin du dépouillement, ce ne sera pas avant demain. François Clémenceau, vous êtes à Washington. En attendant, Donald Trump déclenche une offensive judiciaire tous azimuts.
Oui, c'est un président Trump apparemment très fébrile qui s'agite dans tous les sens depuis qu'il sent que cette élection lui échappe. Selon les médias locaux de Géorgie, l'équipe juridique de la campagne Trump vient de déposer un recours devant un tribunal de Savannah pour interrompre les opérations de décompte des votes par correspondance sous prétexte d'un début de bourrage d'urne. Cela s'ajoute à la demande d'un recomptage des voix dans le Wisconsin, une plainte pour entrave à des observateurs républicains dans des bureaux de dépouillement dans le Michigan et une procédure en cours devant la Cour suprême pour faire interrompre le décompte des votes par correspondance en Pennsylvanie, là où la remontée de Joe Biden dans les banlieues de Philadelphie menace de faire perdre Donald Trump.
François Clémenceau, rédacteur en chef international du JDD à Washington. En France, plus de 4000 malades en réanimation, près de 400 nouveaux décès à l'hôpital en 24 heures. Pour lutter contre la propagation du Covid, le gouvernement pourrait annoncer ce soir un durcissement des mesures, notamment un couvre-feu en région parisienne. Une sacrée mauvaise soirée pour les clubs français de foot en Ligue des Champions. Défaite du PSG sur le terrain de Leipzig 2-1. Rennes écrasée en Angleterre par Chelsea 3-0. Et puis c'est un phénomène de librairie qui sort aujourd'hui. La BD de Riyad Satouf, L'Arabe du futur, tome 5. Mathieu Charrier nous le présente.
Le jeune Riyad a désormais 14 ans. Nous sommes en 1992, il est scolarisé dans un collège de Rennes, tiraillé entre ces deux cultures. D'un côté, celle de son père, qui a fui la France pour son pays, la Syrie, et respecte très scrupuleusement les préceptes de sa religion musulmane. Et de l'autre, la culture de son grand-père breton, adepte du naturisme, est très libertaire.
Quand on est séparé comme ça entre deux pôles extrêmes, moi, ma solution a été de me trouver un autre pôle. Je me suis dit que j'appartenais à la famille et au peuple des gens qui font des livres. Ma grand-mère bretonne me trouvait légèrement meilleure que Picasso. J'ai été porté par cette confiance.
Et c'est ce que raconte cet album. Comment un jeune adolescent, en plein drame familial, est sauvé par l'humour et la bande dessinée. Une BD qui sort alors que les librairies sont fermées, Covid oblige. Mais le dessinateur n'envisageait pas de repousser la publication.
J'habitais un petit village en Syrie où personne ne lisait. Donc je ne dois d'être là aujourd'hui qu'uniquement au fait que ma grand-mère bretonne m'envoyait des Tintins par la poste. Pour moi, le livre est un bien essentiel.
Quant au jeune Riyad, adolescent, il est persuadé à la fin de ce tome 5 qu'il restera vierge et célibataire toute sa vie. On a donc hâte de découvrir le tome 6.
En effet, Mathieu Charrier, Riyad Satouf sera l'invité du 18-20 de Julien Bugier ce soir.
Merci beaucoup Hélène Zélani. Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
C'est du beau temps, c'est du grand beau temps. Je vous disais tout à l'heure que l'automne est une demeure d'or et de lumière. C'est le poète qui dit ça, hein. L'or jaune des feuilles mortes et la lumière bleue du ciel clair. C'est exactement ce que nous aurons aujourd'hui puisque nous allons vivre une journée vraiment, vraiment ensoleillée et surtout uniformément ensoleillée. Sur l'ensemble de la France, il fera beau avec une petite tache, disons, nuageuse dans le secteur du Vendôtan, c'est-à-dire sur le Roussillon et puis un petit peu plus loin dans la vallée du Toré, il pourrait y avoir des nuages élevés. Mais dans l'ensemble, ce sera très beau. Les températures ce matin sont froides, sans excès, moins qu'hier en tout cas, avec un moins 3 à Charleville, c'est le plus froid, et un plus 7 à Biarritz et Clermont-Ferrand, et même un plus 9 à Lyon. Et dans la journée, la fourchette, bon appétit, bonjour, se situera entre 12h. Entre 12 degrés et 19 degrés, et vous puisez ce que vous voulez, c'est 15 à Bordeaux, 17 à Toulouse et 12 degrés à Paris. Voilà, ça c'est pour la journée de ce jeudi.
Europe Matin, le 7-9.
Europe won live for the American election.
8h38 sur Europe 1. Vous retrouverez demain matin, évidemment, comme tous les jours, Jimmy Mohamed pour notre santé. Mais nous sommes évidemment à l'heure américaine, toujours sur Europe 1. Je suis avec Yannick Mirreur, spécialiste des États-Unis. Yannick, on dit beaucoup de choses sur l'état de tension, de suspense autour de ces élections. Le processus, et là, toutes les réclamations qu'on va entendre du côté des avocats de Donald Trump, état par état. On parle d'une situation inflammable. Est-ce qu'il faut craindre pour la suite, pour les jours qui viennent?
Ce qu'on a pu constater, ce qui est certain, c'est évidemment un ton donné par le président Trump, fidèle à lui-même, si je puis dire, qui préempte et qui prétend qu'il y a fraude. Et d'ailleurs, le message parmi les républicains, c'est étonnant à quel point ce parti est sorti de la route. D'ailleurs, historiquement, il faudra qu'il se refonde si M. Trump perd cette élection comme on semble, ça semble être le chemin, parce qu'il y a une décence et une certaine des règles de comportement quand même à conserver. Il n'y a pas de preuve de fraude jusqu'ici. Donc l'inflammabilité, elle existe. Je ne pense pas qu'elle sera aussi désastreuse qu'on a peut-être pu le craindre jusqu'ici, même si ici et là aux États-Unis il y a des situations qui sont très tendues. Ce qu'on a pu constater, en revanche, et qui est beaucoup plus durable au-delà de cette élection, ce sont des différences et parfois source d'incompréhension entre Européens et Américains. Et vous l'avez montré avec vos correspondants aux États-Unis, par exemple à Phoenix ou ailleurs, avec des militants trumpistes, je dirais plus trumpistes que républicains, qui réclament qu'on arrête le dépouillement, ce qui est, j'allais presque dire cognitivement, impossible, inconcevable dans d'autres pays. C'est dire si la culture politique est différente.
Enfin, deuxième exemple, ni même aux États-Unis normalement, ce grand pays de démocratie, l'idée d'arrêter de compter les voix.
Dans beaucoup de parties des États-Unis non plus, vous avez raison de le rappeler. Je donne un deuxième exemple, beaucoup plus calme, si je puis dire, dans ses ressorts. La Floride, une fois de plus, a voté pour le candidat républicain, et en l'occurrence pour la personnalité de M. Trump. Bien. Au même moment, la Floride votait pour la revalorisation du salaire horaire minimum. Par exemple, 61% des voix pour remonter à $15.
C'est pas le programme de Trump, ça.
Ce qui est plutôt, on va dire, si on simplifie, démocrate, et qui vous montre la complexité du système américain et d'un système fédéral où il y a évidemment des mouvements, des jeux politiques, sociaux, contradictoires, ce qui veut dire que c'est assez difficile à analyser et ce qui fait évidemment la beauté du jeu que nous pratiquons.
8h40 et nous continuons de suivre ce qui se passe outre-Atlantique avec Fanny Agostini notamment. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Notre planète, Fanny Agostini. Alors on regarde les États-Unis. Hier était une journée marquée d'une pierre noire avec le retrait officiel de l'accord de Paris.
Et oui, c'est chose faite. Les États-Unis ont déposé hier leur retrait officiel de l'accord de Paris sur le climat, ce traité international adopté lors de la COP21 en 2015 sous la présidence française. Donald Trump a en fait usé de l'article 28 permettant à tout signataire de l'accord de s'en retirer sans pénalité 3 ans après son entrée en vigueur. Le processus a donc été très long. C'est après avoir annoncé en juin 2017, cette volonté que la sortie a pris effet hier. Donald Trump est aujourd'hui le seul chef d'État à avoir retiré son pays d'un des accords les plus importants de l'histoire de la planète, après probablement la déclaration des droits de l'homme.
Les résultats ne sont pas encore fixés, alors faisons quelques pronostics. Fanny, si Donald Trump est réélu, qu'est-ce que cela voudrait dire pour le climat ?
Eh bien, un peu le désespoir. Rappelons que les Américains sont les plus grands émetteurs historiques de gaz à effet de serre. Ils sont responsables de 15% des émissions mondiales aujourd'hui et cela ne compte même pas les émissions de CO2 des produits importés. Alors, facile à anticiper, comme il l'a fait tout au long de son mandat, Donald Trump continuera à redonner du souffle à l'industrie américaine du charbon et du pétrole. Il démantèlera ce qui reste de la politique environnementale qu'avait tenté de mettre en place son prédécesseur, comme le plan énergie propre de Barack Obama, qui n'a finalement jamais vu le jour. Et puis de tous les ministères qui ont subi des coupures budgétaires sous Trump, c'est celui de l'environnement qui a le plus souffert et nous verrons sûrement encore un exode de scientifiques qui ont déjà massivement démissionné, intimidés par l'administration climato-hostile du président.
Et si c'était Biden, il a l'avantage ce matin ?
Oui, et c'est une bonne chose. Alors, inutile de vous dire que ce sera le jour et la nuit. Illico presto, comme il l'a rappelé d'ailleurs il y a quelques heures, Joe Biden signera un décret rétablissant la participation du pays dans l'accord de Paris. L'ancien vice-président souhaite aussi engager une révolution énergie propre dont les composantes sont des investissements massifs dans les énergies renouvelables et la mise en place de mécanismes de prix sur le carbone. Son objectif, vraiment, est une économie américaine entièrement décarbonée d'ici 2050. Alors certes, ce sont des annonces, des objectifs plus faciles effectivement à annoncer qu'à mettre en œuvre, mais ce qui est certain, c'est qu'alors que Donald Trump provoquait une déflagration climatique à l'échelle internationale en influençant d'autres chefs d'État dans son sens, tels que Bolsonaro, Poutine ou Johnson, un président comme Joe Biden permettrait d'impulser un nouvel élan positif à l'échelle internationale avec des États-Unis qui cesseraient enfin de tirer les politiques climatiques vers le bas.
Fanny Agostini, notre planète, merci beaucoup, il est 8h43. Vous restez bien sur Europe 1, Julie s'est installée déjà, Nicolas Canteloup arrive, à tout de suite.
Présidentielle américaine, USA 2020, Europe 1, au cœur de l'événement.
Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Ils sont encore dans le studio, Sonia Mabrouk et son invité Jean-Yves Le Drian.
Mon invité, ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, bonjour. Alors l'élection américaine, quelle serait la meilleure option pour la France ? Joe Biden ? Donald Trump ?
Écoutez, Madame Mabrouk, non, nous n'en sommes pas là. Hein. Les États-Unis, donc, ce sont un grand pays, hein, une grande démocratie. Il est certain qu'un un président va sortir de cette élection, de ce grand pays que sont les États-Unis, avec différents États qui ont chacun leurs règles. Et on fait confiance à leurs institutions. Et puis, on ne va pas se mouiller, hein, parce que non, bah, imaginez, s'il y en a un qui est élu et que ce n'est pas le bon, on aura l'air malin.
Mais quand même, regardez-moi dans les yeux, Jean-Yves Le Drian. Regardez-moi dans les yeux. Mais quand même, Biden, ce serait quand même un choix meilleur pour la France, non, Jean-Yves Le Drian?
Oula, non, mais écoutez, vous savez, on n'en est pas là. Hein, les États-Unis sont un grand pays, hein, une grande démocratie. On va pas. Non, je me mouille pas. Vous savez, j'ai pas pris mon maillot. Hein, je vais pas risquer quoi que ce soit. Ça fait. J'ai passé 40 ans à bosser avec Hollande. Si j'étais du genre à avoir des opinions tranchées, ça se saurait. Hein, j'aurais pas fait la même carrière.
Mais Trump, qu'en pensez-vous? Mais regardez-moi dans les yeux, bordel, Jean-Yves Le Drian.
Non, je ne peux pas. Non, mais moi, vous savez, ça fait. J'ai que 40 ans d'expérience dans la politique. Donc, je regarde mes filles. Je veux pas dire de conneries. Et puis, en plus, ma femme regarde l'interview. Si elle voit que j'ai regardé autre chose que mes chaussures ou mes filles, je vais me faire engueuler. Et j'ai aucune. Ça fait 40 ans que je dors dans le lit conjugal, j'ai aucune envie de me retrouver à dormir sur le canapé. Non, moi je suis venu pour ne rien dire, Madame Mabrouk, hein, ne rien faire d'ailleurs. D'ailleurs, j'étais même pas là. Ça y est, vous vous souvenez même pas que je suis passé.
Merci pour cette interview fantôme, Jean-Yves Le Drian.
Merci Sonia.
À vous Julie.
Merci Sonia. Tout de suite, on va retrouver les titres avec vous, Mathieu Béliard. Europe 1.
Mathieu Béliard.
Voilà, ça va aller. Oui, non, pardonnez-moi, j'ai déjà Jean-Yves Le Drian qui regardait tellement ses chaussures qui s'est mangé la porte du studio. Oui, pardon, ma chère Julie. Bienvenue sur Europe One avec ce jingle américain, vous l'avez entendu. Je suis impatient de voir quel jingle nous aurons pour quand nous suivrons l'élection au Mexique. Ça va être ambiance salsa sur Europa Une. Voilà. L'actualité ce matin, c'est toujours, oui, j'ai fait un bide, c'est toujours l'élection qui se déroule aux États-Unis.
États-Unis, il faut le dire vite, uni, pas vraiment, pas du tout même. S'il y a bien un pays au monde qui n'est pas uni en ce moment, c'est bien les États-Unis. On est plutôt dans les États désunis.
Oh,
en tout cas,
magnifique.
Joe, oui, c'est du trouvaille. Joe Biden semble en avance, semble devant. Hier, j'ai dit tout le contraire. C'est la force d'Europe 1 de pouvoir changer comme ça du jour au lendemain, de passer, il fait beau, il fait pas beau.
Ça, je connais.
Joe Biden, donc il semble être devant. Il a le soutien en plus des stars. Vous avez vu, Lady Gaga a fait derniers meetings avec Joe Biden. Comme ça, on avait d'une pierre deux coups, Lady Gaga et Papy Gaga en même temps. Et oui, à 77 ans, toute la famille Gaga était au grand complet. La France, en tout cas, est prête à accueillir le résultat. Et c'est vrai que, effectivement, la France félicitera le vainqueur, quel qu'il soit.
Bonjour, monsieur Bayrou.
Je suis en train... Oui, pardonnez-moi, vous me prenez en plein travail. Je suis en train de rédiger le discours pour présenter nos félicitations aux gagnants.
Mais c'est pas à vous d'écrire ça.
Si, car je suis, vous le savez, chargé par le président de la République de m'occuper de la France de dans 30 ans. Et vous l'avez compris, les résultats des élections américaines, on les aura dans 30 ans.
Eh bien, bon courage, monsieur Bayrou, et merci à tous.
C'est pas mal trouvé, ça.
Ah, très bien, oui.
J'ai appelé à monsieur Béliard, alors ça me va.
Ça me plaît. Tout va bien. L'incertitude règne toujours aux États-Unis. On va en parler avec Jean-Michel Apathy. Bonjour.
Bonjour, ma chère Julie. Bonjour à mon collègue rouleur de R, Mathieu Béliard. Écoutez, oui, c'est toujours l'incertitude, vous l'avez compris. On attend encore les 70 000 votes par correspondance du comté de Where is Brian en Pennsylvanie, ainsi que les 45 000 bulletins du district de Space Mountain dans le Michigan, et 35 000 votes du comté de Pulp Fiction en Géorgie, 22 000 du district de Yellow Submarine dans le Wisconsin.
Oui, en tout cas, Donald Trump, lui, contestera tout résultat défavorable.
C'est vrai, oui. D'ailleurs, la Russie, la Corée du Nord et la Chine ont demandé à Donald Trump de respecter la procédure démocratique. Il est quand même étonnant, ce Donald Trump. Il veut qu'on ne compte plus en Pennsylvanie, mais qu'on recompte encore dans le Wisconsin. Il faudrait savoir, on compte ou on ne recompte pas. En tout cas, on voit très bien que Donald Trump cherche jusqu'au bout à séduire les électeurs noirs en adoptant les méthodes des dictateurs africains. Pas sûr que ce soit la meilleure méthode. Bref, on a, je vous l'ai compris, dans l'incertitude, on est inquiet pour Joe Biden. Vu son âge, on n'est même pas sûr qu'il soit encore vivant à la fin du dépouillement. On n'y comprend rien.
Merci Jean-Michel.
Mais de rien. Vanne de Julie.
Bon, allez.
Elle a fait rajouter le texte.
Mais c'était drôle, non?
Mais c'est super.
Il faudra citer Julie dans les auteurs.
Donald Trump et Joe Biden sont âgés tous les deux, mais en forme de personnalités qui s'affrontent et qui
Pardon, excusez-moi. Et depuis le début de cette élection, vous faites intervenir absolument tout le monde. Je constate que vous n'avez pas fait appel à moi. Mathieu Béliard se revendique être celui qui vous fait vivre, dit-il, un moment historique au cœur de cette élection. Nanani, nanani, nanana. Mais monsieur Béliard, vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous êtes au cœur. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Moi aussi, je possède une expertise.
Alors, vous vous considérez expert en politique américaine, vous?
Non, mais je suis expert en vieux. En vieux, je m'y connais. Par exemple, Joe Biden. Ça, personne ne l'a noté dans la rédaction. Joe Biden a un meilleur dentier. Bien plus blanc, bien plus droit. Écoutez, parallélisme. Alors parfois, il bafouille. Donc je dirais que la colle à dentier est peut-être meilleure chez Donald Trump.
Ces
bafouillis, ils ne sont pas étrangers.
Merci, bravo pour l'analyse.
Je m'y connais en analyse. J'ai encore fait 4 ce matin. J'attends aussi les résultats. J'espère avoir plus tôt que les élections américaines. Alors, au niveau de la sénilité... Joe Biden a l'air en difficulté.
Ouais.
Ouais, vous l'avez noté, hier, dans son dernier allocution avec un mégaphone, il a confondu ses deux petites filles. Et je dirais que Donald Trump n'est pas au top non plus. Hein, vouloir boire de l'eau de Javel pour soigner le coronavirus, normalement, c'est vers 95 ans qu'on tient de pareils raisonnements.
Ah, ça, oui, il y a des chances. Alors.
Mais qu'est-ce que
c'est que ce chahut. Oh, monsieur Giscard. Non, monsieur Giscard d'Estaing. Je vous avais dit de ne pas embêter Mme Julie avec votre analyse. Oh, oui, on vous a entendu 100 fois en parler pendant l'atelier puzzle. Oh non. Mme Julie, c'est Christiane.
Oui, bah bien
je
sûr,
peux
je
vous prendre. Oui, la maison de retraite. Oui. Désolé. Non, il a encore joué avec le téléphone. Je suis désolé. Je m'excuse auprès de tous vos auditeurs. Vous savez, c'est. Cette élection avec deux personnes de leur âge qui peuvent remporter les États-Unis, ce grand pays. Mmh. Oh, mais ça leur donne des ailes à nos pensionnaires. Aïe, tous ils veulent faire la politique maintenant. Non, non, monsieur Giscard d'Estaing, qu'est-ce qu'on dit gentiment à madame Julie ?
Au revoir.
Ah, magnifique. Ah, c'est mieux que mes blagues à moi. Hein. Bon, la quantité.
C'est l'humour 1920.
La quantité de votes hispaniques qu'a reçu Donald Trump pour gagner la Floride est étonnante. Alors qu'il les considère comme des étrangers, il a multiplié les discours racistes à leur encontre, jusqu'à vouloir ériger un mur, on le sait, sur la frontière mexicaine. Bonjour Marine Le Pen, vous vouliez réagir.
Oui, oui, bonjour Mme Leclerc, bonjour Monsieur Cabrol. Et, oh, et bonjour à mon frère, et Jimmy Mohamed. Je te passe le salam, mon frérot. Ça va la famille? Comment va la Mifa? Et mon joli métis, que j'ai toujours admiré, comme tous mes cousins Renoir et Rebeu.
Oui, bon, écoutez, n'en faites pas trop quand même. Hein. Alors, pourquoi les Hispaniques ont-ils voté pour Donald Trump, à votre avis?
Bon, écoutez, j'écoutais les résultats en mangeant mon mafé, mon yassa et mon tieboudienne. Et... Effectivement, j'étais surprise. Surprise par ce vote latino pour Donald Trump aux dépens de M. Bidet. Bidet. Il y en a le charisme et l'utilité. Comme quoi les minorités, comme mes frères maliens, mes frères sénégalais, mes Ramza, peuvent voter pour un candidat patriote. Black Lives Matter, Black Vote Matter, j'ai envie de dire.
Bien.
Et nous mettrons fin à la domination des Blancs. Inch'Allah, Nardik Bebek, le système les rouilla.
Bon, alors et attention. Hein. Donald Trump n'a pas dragué, comme vous le faites, les Latinos et les minorités. Et c'est pour ça que c'est étonnant. Il les a stigmatisés, mais ils ont quand même voté pour lui.
Attendez, qu'est-ce que vous dites là? Maintenant, quand on stigmatise les minorités, elles votent quand même pour vous?
Bah, apparemment. Hein.
Ah oui, eh bien, ça change tout. Alors, je peux enlever ce boubou et ce collier avec un chasse-mouche. Et je peux donc désormais dire la vérité. Hein, les Arabes sont des voleurs, les musulmans des terroristes, les Noirs ont le rythme dans la peau. Voilà, Jimmy Mohamed, votre charter vous attend. Monsieur Béliard vous accompagnera jusqu'à Bamako, je ne sais où. Vous serez très bien tous les deux à broder des tapis hein, ou à sculpter des fétiches. Madame Julie, rassurez-moi, vous êtes sûre qu'en leur parlant comme ça, ils vont voter pour moi?
Bah, essayez.
Moi, j'y comprends plus rien à 2020, moi.
J'aimerais bien voir ça.
Marine
bravo à Philippe Cabrivière, Laurent Vassilio, Renaud Demanche et à Julie. Parmi les auteurs ce matin, je tiens à le souligner. Nicolas, vous êtes toujours là?
Oui.
Non, bravo à vous, particulièrement ce matin, parce que quand on a fêté son anniversaire jusqu'à 4h du matin, c'est difficile d'être bon. Et là, ça ne s'est pas senti du tout, Nicolas.
C'est très gentil. J'ai fait une queue leu leu. On a un peu oublié votre anniversaire. Il y avait quand même deux événements sur la planète en même temps.
Bah oui, c'est ça.
C'est quoi le deuxième? Moi, j'ai l'anniversaire de Nicolas, j'ai pas la suite. Merci Nicolas.
Salut Mathieu, c'est adorable.
Presque à retrouver sur europe1.fr. Laissez-moi juste, avant de passer la main à Philippe Vandel, remercier Yannick Mireur qui nous accompagne depuis 7h ce matin.
Merci à vous.
Politologue, spécialiste des États-Unis que vous lisez dans la revue Politique américaine. Merci Yannick. Philippe Vandel est là. Oui. C'est Culture Média, la suite de la matinée sur Europe 1.
On va parler du combat de Facebook contre le harcèlement scolaire. On l'accusait beaucoup et Facebook lance une belle initiative. À l'occasion de la journée nationale contre le harcèlement, on serait avec la directrice de la com de Facebook en France, Michèle Gilbert, et une directrice d'association de protection de l'enfance, Justine Atlan. Puis au sommaire aussi, Maïté Nabirabin, elle a une émission OVNI sur LCP, ça s'appelle Déconfiné. Elle s'intéresse à la prison, aux prisonniers, à l'enfermement. Évidemment, en pleine période de confinement, ça pouvait pas mieux tomber. Et puis un jeune chanteur, talent immense, Hervé, vous le connaissez, il danse comme un forcené, et c'est cette musique qu'on entend dans la pub Carte Noire. Non, j'ai pas dit la marque.
Philippe Vandel, Culture Média, la matinée continue sur Europe 1. De 9h à 11h, je vais vous souhaiter une très belle journée. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.